toutes les startups, une fois que tu as trouvé une formule qui marche, tu rajoutes des couches sur ton produit, des couches sur des couches sur des couches, et au final, tu te retrouves avec une usine à gaz.
Et surtout que businessment, je pense que tu es beaucoup plus rentable à faire ça. C'est moins casse-couille, ouais. Tu te prends moins la tête, et en plus de ça, ça te rapporte plus.
Ah, pourquoi t'as pas fait ça? Mais qu'est-ce que t'es con en plus?
Ah, en moyenne, on est à alentours de par mois.
Plus besoin de travailler.
Après, c'est qu'à terme, t'es obligé de recruter des gens, donc tu dois gérer des humains, ce qui est encore plus relou. Enfin,
bien payé, tout se passait bien, pas d'altercation, rien. Enfin, rien à signaler. Du jour au lendemain, disparu. Générique de fin. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast, un podcast business une fois par semaine, tous les jeudis à midi. De temps à autre, on a la chance de recevoir un invité et aujourd'hui, on a cette chance-là avec Alex Borto, le fondateur de WP Marmite. Salut Alex.
Salut les gars. Salut. Merci de m'avoir invité, ravi d'être là.
Avec grand plaisir, on a hâte de pouvoir avoir cet échange avec toi. Juste avant de commencer, on vous le rappelle en description, vous trouverez la formation gratuite donc des Wizards d'Anthony, Franck et moi-même sur la vente de liens, qui est un business assez intuitif, assez facile d'accès, on va dire, si vous n'avez pas encore expérimenté vos premiers euros gagnés sur Internet, ça peut être une idée. La formation est complète et gratuite, donc profitez-en. Et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Pour être franc, Alex, moi, je t'ai rencontré. Alors évidemment, on est comme beaucoup ici d'éditeurs de sites. On est tous tombés au moins une fois, si ce n'est beaucoup plus de fois, sur WP Marmite. Et je te laisserai nous expliquer un petit peu dans ta présentation ce que tu fais. Moi, je ne vais pas te cacher que je t'ai principalement découvert, en tout cas un peu plus en profondeur, sur les podcasts avec Stan Leloup, que j'avais beaucoup apprécié, où tu expliquais un petit peu justement ton parcours. Et ce qui était sympa, c'est qu'on pouvait voir l'évolution de tes projets, WP Marmite. Et toujours dans un souci de transparence, c'est vrai que depuis le dernier podcast qui date d'il y a 3 ans avec lui, je crois, moi, je ne sais pas exactement ce que tu fais aujourd'hui, comment les choses ont évolué. Donc, moi, j'ai pas mal de questions en ce sens, justement, mais dans un premier temps, pour notre communauté, pour les gens qui écoutent le Wizard Podcast, je veux bien que tu te représentes un petit peu dans les grandes lignes et que tu expliques justement ce que tu fais.
Ok, ça marche avec plaisir. Du coup, voilà, Alex Borto, j'ai créé wpmarmite.com en 2011. Bon, à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais on choisit toujours des noms pourris quand on commence, et après, on se rend compte, on part sur des choses un petit peu plus brandées. Mais du coup, voilà, l'idée, c'était quoi? C'était de base de présenter des thèmes WordPress. Donc, je faisais des sélections de thèmes WordPress parce que à l'époque, j'étais en stage et donc, je devais faire des sites web. Donc, après, j'ai découvert WordPress et je me suis découvert que trouver des thèmes WordPress, c'était compliqué. Donc, je me suis dit, bon, un site pour présenter des thèmes WordPress, ce serait pas mal. Et donc, c'est là que j'ai un peu découvert tout le monde du blogging, etc. Et donc, de fil en aiguille, 2024, je suis toujours là. Donc, ça a un peu évolué. Je me suis ouvert à parler vraiment de tout l'écosystème WordPress, des plugins, tutoriels, etc. Je me suis mis au podcast, je me suis mis à la vidéo, j'ai essayé de développer la marque tout azimut un petit peu. Et il y a des autres projets qui sont qui ont été lancés en parallèle de tout ça, toujours liés à WordPress. Il y a vraiment un centre vraiment de gravité qui est WordPress. Et donc j'ai cofondé un organisme de formation avec 2 autres associés qui s'appelle WP Chef Formation. Alors, on pourra revenir après sur tout le déroulé, mais voilà, aujourd'hui, je suis juste actionnaire, mais je ne suis plus forcément actif dans l'opérationnel. Enfin, vraiment, pas mal de choses ont évolué, mais l'idée, c'est quoi? L'idée de fond, c'est d'aider les gens à lancer des sites avec WordPress, à les former, les faire monter en compétences, et leur proposer des produits et des services qui sont liés à la création de sites en général, quoi. Et donc là, nous, on propose aussi des formations en ligne, bien sûr, pour monter en compétences. Donc, notamment une formation sur le SEO, mais on a aidé aussi des gens à se lancer en freelance. On a aidé des gens à faire pas mal de choses dans tout ce qui est lié à WordPress, quoi. Donc, sur tout ce qui est création, gestion de site, et puis surtout développement de l'audience, quoi, puis personnalisation aussi. Donc voilà, pas mal. J'essaie de résumer un petit peu l'activité, j'espère que c'est clair.
Alors moi, je me suis noté pas mal de petites questions vraiment concernant cette espèce d'avant-après entre ce que moi j'ai vu, donc la dernière interview que tu as fait avec Stan où tu fais un petit
peu... Tu vas me la rappeler.
Les updates, c'est ça. Justement, on va par exemple parler de WP Marmite et typiquement, bon, on est sur un podcast où on aime bien le SEO, je sais que toi aussi, tu es forcément très concerné par ce sujet-là. À l'époque, alors première chose, je pense qu'il est intéressant à voir, c'est que je ne sais pas si tu le sais, mais avec Franck et Anto, nous, bon, on édite des sites depuis un moment, et on a cette espèce de croyance qui, à mon avis, que tu casses complètement avec un site comme WP Marmite, qu'au bout de 3-4 ans, de vie d'un site, le site a tendance à se péter la gueule et à piquer du nez. Et souvent, c'est lié à plein de choses. Nous, sans rentrer dans trop de détails, c'est un sujet qu'on aborde longuement dans plein de podcasts, mais on va dire que c'est aussi souvent lié à l'intérêt de la personne ou des personnes derrière le site qui peut-être lèvent un peu le pied au bout d'un moment parce qu'il y en a marre, justement, de manière assez logique, les gens changent un peu de projet, ou alors c'est lié au fait que le site est en pleine croissance, donc on se dit « bah cool, je vais partir en vacances ». Il y a aussi un peu de ça dans l'édition de site. Comment est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses de cette espèce de théorie et qu'est-ce que tu as constaté au niveau de WP Marmite au fil des années, justement?
Bah, c'est vrai qu'au début, je charbonnais pas mal à rédiger des articles. Je devais sortir 2 articles par semaine de 1500 mots, 2000 mots, où je présentais des thèmes. Alors, chaque fois, c'était « machin est un thème truc qui permet de faire portfolio truc ». Au bout d'un moment, tu as une tête comme ça. Donc, j'ai fait ça pendant... J'ose même plus me rappeler pendant combien de temps j'ai fait ça. Mais c'est vrai qu'en fait, l'activité s'est développée et ce qui m'a permis de déléguer. Et donc, ça m'a permis de passer à d'autres tâches. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu cette fatigue, on va dire, au bout de plusieurs années. Et donc, voilà, j'ai expérimenté YouTube, j'ai expérimenté pas mal de choses. Et du coup, voilà, l'idée, c'est d'essayer de distribuer les casquettes un petit peu, comme j'aime bien le dire, et de d'essayer de se concentrer sur ce que, déjà, t'es le meilleur à faire, quoi, sur quoi t'es bon, et de déléguer le reste, quoi. Donc... ouais, voilà un petit peu mon explication. Mais après, l'idée aussi, c'est que j'avais vraiment à cœur de développer.
T'as pas du tout ressenti justement ce côté un petit peu essoufflement. T'as pas subi les filtres, les mises à jour de Google. T'as pas été puni par...
J'ai eu Panda en 2014, je crois. Et donc, ça s'est pas mal... Enfin, j'ai eu une traversée du désert donc, qui a duré 6, 7, 8 mois avant de remonter. Okay. Et du coup, j'en avais parlé sur le blog de Miss SEO Girl. Mais alors, après, est-ce que c'était Panda? Ou est-ce que c'était... Parce qu'en même temps, ça a coïncidé avec le changement de marque pour arriver sur wpmarmite.com. Donc, est-ce que j'avais foiré ma migration de domaine? Tout est arrivé en même temps. Donc, j'ai jamais eu vraiment l'explication. Mais ouais, j'ai eu cette traversée du désert-là parce que le blog est passé de 3000 visiteurs à 300. Et je vivais que de l'affiliation à l'époque. Donc, autant dire que c'était un peu tendu. Mais l'avantage, c'est que j'étais solo, en fait. Donc, je crois pas que j'avais d'équipe à ce moment-là. Donc, bon, j'étais assez flexible. Et j'ai pu me remettre un petit peu en selle en trimant un peu. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé aussi mon premier produit. Donc, basculer de l'affiliation au produit en suivant notamment Nathan Berry, je sais pas si ça vous parle, qui a monté ConvertKit depuis.
Je connais pas le personnage, mais ConvertKit, par contre, ouais.
Ouais. Donc, c'est le fondateur de ConvertKit, et lui, à la base, il avait lancé un e-book qui s'appelait Authority, où il expliquait, comment devenir une autorité dans son secteur, etc. Mais avant, il avait lancé d'autres e-books dans le même secteur. Donc, en gros, il expliquait, comment il avait fait ça. Il avait lancé ConvertKit en même temps, mais ça vivotait, et après, il a tout plaqué pour vraiment se focaliser sur ConvertKit, et c'est là que ça a décollé. Mais pour revenir à la question, l'idée c'était quoi du coup? C'était quoi la question?
C'était de savoir si tu avais ressenti un quelconque essoufflement à un moment, mais tu nous as répondu avec Panda. Ouais. Juste, et après je vais laisser la parole à Franck et Anto pour pas trop la monopoliser. Mais en 2021, tu disais que tu avais entre 80 000 et 120 000 visiteurs par mois sur WP Marmite côté francophone. Ouais. Aujourd'hui, le trafic est stable, il a évolué, il a baissé.
Franchement, c'est un peu baissé. Du coup, là, je suis un peu plus... Ouais, je suis entre les 80 et 90 visiteurs, 90 000 visiteurs par mois. Mais il y a un bon quart qui sont anglophones maintenant.
D'accord.
Donc, c'est vrai qu'en FR, c'est un peu baissé. Mais du coup, c'est vrai que l'idée, c'était aussi de se lancer à l'international pour moins dépendre de la France. Et pour le coup, il n'y a pas vraiment de monétisation, à part les liens d'affiliation à l'international. Mais... grosso modo, c'est assez stable. Après, c'est vrai qu'il y a une grosse croissance de WordPress. Là, ça a plus tendance à stagner. On reste dans les 43% de parts de marché. Mais il n'y a pas vraiment de grosse croissance comme il y a pu avoir par le passé. Donc, ça peut peut-être s'expliquer par là. Okay. Après, c'est vrai que 2021, il y avait eu le Covid. Donc, tout le monde a voulu faire des sites. Et là, c'est un peu le contre-coup. Mais, ouais.
C'est ce que j'allais te dire, un petit peu peut-être la perte de croissance de WordPress avec par exemple les arrivées de Webflow qui tape assez fort et assez vite, je trouve, par exemple. Même si on aime ou on n'aime pas, hein. Moi je ne suis pas forcément un grand fan, mais c'est...
Après, en termes de part de marché, c'est pas extra, mais c'est vrai qu'en gros, ils font plus de marketing, donc il y a plus de, peut-être de visibilité, même d'autres solutions, de Wix, etc. Donc voilà. Après, ça ne se manifeste pas tant que ça en tant que croissance dans les stats, quoi. Mais peut-être qu'en termes de visibilité, c'est vrai que les gens ont peut-être plus tendance à aller sur sur d'autres solutions, sur des solutions, sur des SaaS, quoi. Donc, à voir. Après, il y a WordPress qui est aussi beaucoup en train d'évoluer en ce moment, donc ça va peut-être faire relancer un petit peu la machine. On pourra peut-être en parler tout à l'heure de tout ce qui arrive du côté de WordPress, mais on verra bien. En tout cas, WordPress, c'est quand même là, c'est une solution qui est là pour rester, qui va rester et qui continue de se moderniser petit à petit, même si il y a quand même cette rétrocompatibilité qui est super importante pour les contributeurs. Mais...
Ouais. Bah, du coup, j'avais une première question qui est en lien avec ce que tu as déjà répondu, mais globalement, parce que je trouvais que tu survivais bien aux mises à jour justement de Google. Vous passez tranquillement, on va dire. Globalement, la stratégie SEO, est-ce que c'est encore toi qui la gères ou est-ce que tu as quelqu'un qui la gère avec toi, par exemple? Et dans les grandes lignes, c'est quoi la stratégie SEO derrière WP Marmite? La chaîne YouTube, je pense, on peut rentrer un peu dedans la chaîne YouTube qui est quand même à 70 000 abonnés, donc c'est pas anodin. Donc voilà, ouais, globalement, la strat. Ouais, clairement. Ouais.
Ok. Donc, pour la stratégie SEO, c'est nous qui gérons de notre côté. Après, ça m'arrivait de me faire accompagner par différents consultants pour ne serait-ce qu'avoir un regard extérieur, parce que des fois, on a la tête dans le guidon et on ne voit pas nos propres conneries. Donc, ça, c'était quand la dernière fois j'avais fait une après-midi de consulting avec Fred Bobet. Qui était vraiment super intéressante. D'ailleurs, j'ai réécouté l'enregistrement il n'y a pas si longtemps que ça, des trucs que je n'avais pas encore appliqués. Donc, c'est vrai que nous, on est plus sur une stratégie après d'essayer de taper les principaux mots-clés de la thématique, hein, tout simplement, tous les noms de marques, les noms de plugins, les noms de... Là, on est en train de faire des choses au niveau de... On sort un petit peu aussi des articles, pour ne pas dire juste, on fait des articles faire des articles pour des articles, mais plus passer en mode ok, on va essayer de construire un gros silo autour de WordPress. Donc WordPress, qu'est-ce que c'est, etc. Les statistiques, l'histoire, les hébergeurs, les agences. Et après, autour de tout ça, on peut essayer de développer des choses qui sont liées à la monétisation. Par exemple, pour les hébergeurs, on a une liste d'hébergeurs. Alors ça, vous avez dû voir ça mille fois, hein, c'est les top hébergeurs, etc., qui sont classés par commission d'affiliation. Mais du coup, nous, on essaie de faire les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire que, on a un hébergeur, on va dire, partenaire historique qui est O2 Switch, et l'idée, c'est pas de leur faire un petit dans le dos et de mettre en avant d'autres hébergeurs, etc. Donc, eux, ils vont forcément rester en haut de la liste parce que, effectivement, en plus, on est hébergé chez eux, on pense qu'ils sont très très bons, donc là, ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais en gros, pour tous ceux qui sont listés en dessous, pour pas forcément faire du favoritisme ou du copinage, on a monté un système pour qu'en gros ça soit aléatoire, ça soit random toutes les semaines, et donc tout le classement il est remis à jour tous les lundis, et en gros s'il y a un hébergeur qui veut bosser avec nous, eh bien il sera au-dessus des autres, mais après si on a genre trois partenaires, eh bien ils seront random, tu vois, entre les trois seront random aussi, quoi. Et après en dessous on aura tous ceux qui seront pas partenaires. Donc on fait la même chose avec les agences WordPress, on a fait un classement pareil, et puis toutes les agences sont random, et comme ça permet d'éviter le copinage, et puis d'éviter de se dire je te donne tant pour me remonter, et puis après tu vois il y en a un autre qui veut te proposer plus, etc. Enfin, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. Comme ça, c'est ça c'est une des stratégies qu'on a mis en place pour essayer de monétiser un petit peu tout ça.
J'ai une petite question par rapport à ça justement, Alex.
Ouais.
Est-ce que tu penses, et après je poserai aussi la question à Antoine et Franck, tiens, que cette randomisation de ton classement trigger c'est une mise à jour finalement de ta page, et est-ce que ça a un intérêt aux yeux de Google?
C'est justement ce qui m'intéresse aussi. Je me dis, du coup, ça lui donne un petit peu de vie à cette page-là, parce que tous les contenus sont réorganisés toutes les semaines. Donc après, j'ai déjà vu que dans les méta-descriptions, c'était pas forcément mis à jour par Google tout de suite. Mais je me dis que ça peut apporter que du bon au final, quoi. qu'est-ce que ça pourrait apporter de négatif. Donc bon, je me dis voilà, je continue comme ça pour l'instant. En plus, on est premier sur agence WordPress, hébergement WordPress, on est troisième là, on était quatrième, on est passé troisième, donc là on a encore deux places à grimper. Donc on va voir comment ça va se passer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait à chaque partenaire qu'on peut avoir, agence ou hébergeur, on propose une page dédiée, donc une sous-page dédiée par rapport à ce... Donc ça renforce le silo, et à chaque fois qu'on a un partenaire en plus, ça va pousser la page principale, donc c'est pépère, quoi. Plutôt que de se baser que sur un article, où on aurait juste un article, quoi. Il n'y aurait pas forcément de structure derrière. Donc là, ça c'est un petit peu la stratégie. Après, voilà, il y a quand même des articles, les catégories, thème WordPress, plugin WordPress, on essaie de positionner tout ça aussi. Et puis après, c'est vrai que là, on essaie de passer plus en plus d'articles dans notre silo WordPress, en fait. Là, on est en train de passer tout ce qui est lié à Gutenberg et au bloc pour faire un sous-silo, on va dire, Gutenberg au sein du silo WordPress, et de faire un bon maillage interne dans tout ça pour essayer de pousser tout ça au mieux, quoi. Mais après, on fait aussi... Vas-y.
J'allais juste dire, là, tu as deux positions à gagner. Je suppose que vous avez dit comment on va faire pour push ça.
Ouais.
Vous avez déjà sans doute un on-page qui est parfait. À part le off-page, il vous reste quoi à faire globalement ?
Ouais, c'est ça, c'est travailler du maillage, donc faire des liens, quoi, des liens externes, peut-être un peu plus de maillage interne, on n'est peut-être pas assez bon à ce niveau-là. Okay. Après, il y a un truc que j'aimerais bien expérimenter, c'est la manipulation de CTR. Je me suis inscrit sur MicroWorkers, mais je n'ai pas encore le temps de faire le truc. Mais j'ai cette piste-là, donc à voir. Après, je suis patient, mais voilà, on va essayer de faire ça tranquillement, et puis après voilà, on va voir au fur et à mesure que tes partenaires vont arriver, ça va peut-être se faire naturellement au final, donc à tester, quoi.
Et au niveau de ma petite question du coup, Franck et Anto, vous en pensez quoi, vous, de ce sujet de faire rotate une liste de partenaires sur un comparateur?
C'est pas con, je pense que c'est positif, hein. Enfin, c'est toujours mieux qu'une page statique en soi.
Pareil, je pense que ça force à revenir crawl déjà, ce qui est un point positif, parce que si toutes les semaines ça change, Google sait que du coup toutes les semaines faut qu'ils viennent vérifier, quoi.
Moi, tu vois, agence WordPress, je te vois premier.
Hein. Je crois qu'il y a Sortlist qui est en position 0.
Ouais, je te vois premier. Voilà.
Ok, bon, bah, parfait.
Plus besoin de travailler.
Après, il faut maintenir les positions.
Justement, c'est l'erreur.
C'est bien, mais voilà, il faut essayer de travailler. Mais du coup, voilà, plus on aura de partenaires. Là, on n'a qu'un seul partenaire agence jusqu'à présent. Donc en fait, là, ce qu'on leur a vendu, c'est vraiment une page. Et encore, là, elle n'est pas encore totalement à jour parce qu'on n'a pas encore sorti tous les contenus. Mais on a fait un shooting photo, on a fait des interviews vidéo. Donc là, il faut encore qu'on mette les interviews vidéo. Donc le but, c'était de faire un petit peu comme un Welcome to the Jungle, quoi.
Ouais, mais, c'est ce que j'allais dire avec les interviews vidéo.
À la sauce agence WordPress, quoi. En gros, l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire... après, c'est des requêtes qui sont assez simples parce que c'est des requêtes de marque et il n'y a pas 50 000 pages qui cherchent à se positionner dessus. Mais pour les agences, ça leur fait un bon... Voilà, s'il y a quelqu'un qui cherche à se renseigner sur une agence, ça fait une belle page pour représenter un petit peu l'activité, quoi. Plutôt que de tomber sur le Facebook, le Twitter ou le... ça permet d'apporter un petit peu plus de contexte sur les agences en question. Mais après, voilà, on ne s'interdit pas de répliquer ça sur d'autres trucs à voir. Peut-être sur des boîtes d'écosystème WordPress qui des éditeurs de plugins, etc. À voir. Après, c'est plus des boîtes étrangères, donc est-ce qu'ils seront intéressés pour avoir ce genre de page-là ? J'en sais rien, faut qu'on teste.
Comme tu vois, par exemple, je pense qu'il y a des gens qui doivent taper SEO pour WordPress, enfin agence SEO spécialisée WordPress.
Alors, il y a les agences SEO aussi. Là, c'est un autre... Effectivement, ça pourrait être quelque chose à creuser, ouais. Ça pourrait être quelque chose à creuser. Après, les agences SEO pour WordPress, on en parle un peu dans la page d'agence WordPress, quoi, mais agence SEO, il y a peut-être matière à faire quelque chose, quoi. Bon, vous parliez régulièrement de Paul Vengeon qui était arrivé dessus. Je pense qu'avec l'autorité de la marmite, si on fait une page pas trop dégueu, il y a moyen qu'on arrive à remonter aussi, quoi.
Ouais. En tout cas, sur la partie agence SEO dédiée à WordPress, je pense que vous avez... Enfin, ça serait pas très compliqué pour vous d'aller se placer dessus. Ouais. Et là, je pense qu'il y en a plein qui seraient chauds pour être partenaires.
Après, le truc, tu vois, c'est que on veut pas non plus avoir 1000 partenaires, quoi. Enfin, en tout cas, avoir des donc c'est pour ça qu'aussi on essaye de pricer un petit peu nos pages, etc., de mettre un tarif assez élevé pour que ça fasse un peu une barrière à l'entrée, que ça soit pas juste que comme si tu achetais un backlink sur un vieux blog, quoi, tu vois. Donc et puis voilà, surtout que ça monopolise du temps de notre rédacteur, donc pendant ce temps-là, il écrit pas sur d'autres contenus, donc on essaye un petit peu d'arbitrer tout ça, quoi.
Parce que du coup, le modèle, c'est pas du rank and rent au final. C'est pour le partenaire. Il paye une fois et après, il est là.
Bah, il paye une fois, il a sa page.
Ouais.
Et après, du coup, il reste au-dessus des autres pendant un an.
Ok.
Et après, tu reviens random. Donc après, c'est ouais. Donc oui, c'est un peu de la location, mais. Ouais.
Mais location annuelle. Et, par contre, s'ils repayent, ils peuvent apparaître au-dessus ou. Enfin, au-dessus.
Ouais, c'est ça, ouais.
Dans... ouais. Ok. Ouais, c'est ça.
Dans la liste des différents. Ouais. Des différentes agences ou hébergeurs, quoi.
Ok. Mm.
Donc ouais, effectivement, l'idée, c'est d'avoir un récurrent sur l'année. Alors du coup, ça ne sera pas le même prix, vu que la page sera déjà conçue.
Oui, bien sûr.
Mais du coup, après, il y a aussi cet aspect de mise à jour de la page. La page, on peut la mettre à jour, bah, pareil, pendant un an. Et après, bah, du coup, les mises à jour sont plus comprises. Donc sinon, il faut repayer un forfait pour repartir un an de plus, quoi. Donc, ouais. Après, s'il n'y a pas de mise à jour significative, il n'y a peut-être pas d'intérêt, mais peut-être qu'un an après, voilà, ça peut être pertinent, quoi. S'il y a un an ou deux ans après, s'il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses à ajouter, quoi.
Clairement.
Donc ouais, ça fait partie des choses qu'on fait pour la stratégie SEO. Et en plus, après, bah voilà, on a tout ce qui est avant, on n'était pas trop ouvert à faire des deals ou des articles sponsorisés. Par exemple, une boîte, bah là, il y a une boîte qui nous a contacté pour faire la promo d'un thème WordPress. Bon, après, c'est un peu en fonction de notre ligne édito, etc., ce qu'on veut couvrir ou pas, on ne va pas forcément prendre tout le monde. Mais l'idée, c'est aussi de faire des partenariats maintenant, d'être plus ouvert sur vous voulez qu'on fasse la promo de votre produit, en tout cas, on va faire un article sur votre produit. Ce ne sera pas forcément de la promo, mais en tout cas, on va en dire ce qu'on en pense en dépendance, quoi. Donc voilà, ça, on est plus ouvert à ça. Et puis après, l'affiliation, bien sûr, quoi.
Et si le thème il est claqué, tu te sentirais de dire qu'il est claqué ou tu préfères du coup refuser
refuser plutôt que de perdre du temps du temps humain de rédaction.
Ouais.
Donc typiquement là, le thème qu'on nous a proposé là, c'était un thème qui est basé un peu sur Elementor. Donc Elementor, j'aime bien, mais après ils ont d'autres produits qui sont basés sur des blocs. J'essaye plus de m'orienter un peu sur l'aspect bloc maintenant, parce qu'en plus on a pas tellement d'articles que ça sur le sujet. Donc, idéalement, je vais voir avec eux si c'est jouable de plus partir sur une présentation de ce produit-là. Quoi.
Mmh. Ok. Anto, tu
veux... Une petite question. Allez, au bout de toutes ces années, est-ce que tu as jamais eu envie de changer de business ou de thématique ou...
Après, j'ai testé plein de projets parallèles. J'ai essayé de monter une boutique de thèmes. Donc, il y a aussi l'organisme de formation. Alors, c'est pas toujours évident parce que je jonglais entre les deux, quoi. Donc, maintenant, je suis plus reparti côté marmite. On a monté, j'ai lancé une boîte de maintenance qui est en cours de dissolution parce que, pareil, j'ai pas le temps. Enfin, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant et moi, je me fais souvent avoir avec ça. Donc, là, j'essaie vraiment de me discipliner. Mais voilà, j'ai voulu lancer. Qu'est-ce que j'ai voulu lancer d'autre? Une boutique de thèmes, une galerie aussi, qu'on a relancée, mais que j'ai remis en pause. Donc non, après, je me suis vraiment après reconcentré sur la marmite quoi, pour essayer de vraiment de la faire passer au niveau supérieur, d'arriver à vraiment avoir un beau blog, un beau projet, une belle marque. Mmh. Et in fine, que ça serve de tremplin pour lancer d'autres choses. Mais là, pour l'instant, il faut qu'on arrive déjà à la faire vivre bien, quoi. Donc bon. Là, on a quand même un bon CA, mais avec les différentes charges que j'ai, quoi, on est plus ou moins à l'équilibre, quoi. Donc c'est pas non plus transcendant. Quoi.
Alors, en parlant de CA, je me permets, mais justement, dans le dernier podcast que tu as fait avec Stan, tu parlais d'une progression chaque année donc de ton CA avec WP Marmite. Est-ce que ton CA a continué de progresser? Est-ce qu'il s'est stabilisé? Comment ça s'est passé?
Je sais plus où j'en étais, mais là, en moyenne, on est aux alentours de 20-22 cas par mois, quoi. Donc, okay. C'est bien pour un éditeur de site, mais quand tu as...
Sur la partie vraiment affiliation pure et dure, affiliation, tu comptes la formation aussi là-dedans?
Non, je compte tout, vraiment au global.
Tu comptes tout, ok.
Donc, l'affiliation, ça doit faire aller 20% quoi, pour l'instant.
Ok.
Enfin, peut-être un peu plus maintenant, parce qu'on est partenaire avec WP Chef, donc le ratio peut-être au 30%, quoi. 70-30. Donc, après, voilà, ce qui est intéressant, là, c'est que The Switch a peu changé ses commissions. Donc, on est en train de travailler de différentes choses, là, pour... une autre stratégie, je peux en parler d'ailleurs si vous voulez, parce que c'est lié à la stratégie SEO, mais c'est un truc que j'aurais dû faire il y a des années, mais je me dis, pourquoi t'as pas fait ça, mais qu'est-ce que t'es con en plus, j'avais vraiment les signaux du marché, tu vois, c'est des gens en fait, depuis que j'ai lancé le blog, tous les gens me demandent, ouais, est-ce que t'as un thème pour, je sais pas, avocat, enfin, il y a toutes les niches, quoi. Donc nous, on a déjà fait des sélections de thèmes pour photographes, machin, et puis à chaque fois, je me butais à me dire, mais non, mais on s'en fout de ça, de la niche, tu prends un thème généraliste, et puis tu fous tes images, enfin, vous voyez ce que je veux dire, tu fous tes images, t'adaptes ton truc. Et du coup, ce que j'aurais dû faire, donc ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de créer des pages, créer un site pour restaurant, créer un site pour machin, pour avocat, pour X niche, et puis dérouler un truc, bon, bien sûr, pas avec l'affiliation au de Switch, et dérouler au moins des bonnes pratiques, des recos, etc. Et du coup, là on parle là-dessus, quoi. Donc là, on est en train de dérouler ça. Donc c'est un peu en mode SEO programmatique, quand on a une base avec des choses assez communes, et puis après, on personnalise avec la niche et les ressources de la niche, quoi. Okay. Donc ça, c'est en cours de déploiement.
Tu bosses pas du tout en faisant de l'apport d'affaires, il me semble que...
Et il y a ça aussi, du coup. Et du coup, là, c'est un truc qu'on est en train de développer, du coup, sur ces pages-là. Donc, une fois qu'elles seront positionnées, on a déjà un formulaire qui est en place.
Ouais.
Et donc, l'idée, c'est de récupérer les leads, de voir est-ce que les gens veulent faire soit leur site eux-mêmes, soit le faire à quelqu'un, à une boîte. Et donc là, on pourra les orienter soit sur les bonnes ressources, soit sur une formation, soit sur une agence.
Parce que là, tu vois, même sur ce que disait Franck tout à l'heure, par rapport aux agences SEO WordPress, pour un peu que demain, vous arrivez à vous positionner, ce qui, encore une fois, fait assez peu de doutes, derrière, vous pouvez assez facilement, sur de l'apport d'affaires, récupérer 15% des clients à vie, sur chaque renouvellement de campagne de netlinking, etc. Enfin, c'est conséquent. Et avec la patate de votre site aujourd'hui, il y a vraiment des choses à faire de dingue, quoi.
Ben ça, c'est clairement le focus de l'année, en fait. C'est vrai que, pour en parler, j'étais parti un peu dans un mode accompagnement SEO, essayer de vendre de l'accompagnement du service.
Ouais, j'ai vu ça.
Je me suis rendu compte que c'est pas mon métier, c'est pas mon kiff, il a fallu tester pour se rendre compte. Mais du coup, voilà. Là, le pivot, c'est on part sur ça. On met en place un certain nombre de pages pour capter un maximum de prospects. Et puis, on va dérouler, on va voir ce que ça va donner. Et on va essayer de soit pousser de l'affiliation, soit pousser nos formations, soit pousser les formations partenaires, soit renvoyer chez des prestataires en fonction des profils, quoi. Donc, on va essayer de faire un truc qui soit propre en fonction de... pour aider au max les gens, quoi, tout simplement.
Carrément.
Et surtout que businessment, je pense que t'es beaucoup plus rentable à faire ça. C'est moins casse-couille. Ouais. Genre, je pense que tu te prends moins la tête. Et en plus de ça, ça te rapporte plus. Et en plus de ça, t'as pas... Parce que le problème de faire de la presta SEO, qu'importe, c'est qu'à terme, t'es obligé de recruter des gens. Donc, tu dois gérer des humains, ce qui est encore plus relou. Enfin, alors que là, catch du lead, les redistribuer, bon... Sur le papier, en tout cas.
C'est ça. Non, mais bon, après, c'est vrai que, comme je disais, on a tendance des fois à se faire influencer après avec différents influenceurs, etc. Tu les vois, ils font ci, ils font ça, etc. Mais après, est-ce que ça te correspond vraiment par rapport à ce que toi, tu aimes faire, tu sais faire, etc. En tout cas, moi, pas forcément. Donc, je me suis fait peut-être un petit peu embarqué dans un truc. Mais voilà, la réalité m'a ramené un petit peu à ce que j'aime faire, tout simplement. Et du coup, partir là-dessus, c'est vraiment mon gros focus de l'année, d'essayer de mettre en place une belle machine pour. Et surtout, un truc aussi qu'on va mettre en place, je n'ai pas encore parlé publiquement, mais c'est qu'on va aussi essayer de proposer des modèles de sites, quoi. Donc en gros, y en a, ils ont les tutos, ils ont tout ça, mais ils ne veulent pas se casser la tête. Peut-être pour 150, 200 balles, tu as ton modèle de site. Peut-être qu'il y aura moyen de brancher un truc avec de l'IA derrière pour essayer d'avoir les premiers contenus, essayer de faire un truc qui soit le plus propre possible pour que ça fasse un bon tremplin. Si même ils veulent pas se casser la tête à l'installer, on peut même avoir des partenaires pour leur installer le truc, quoi. j'ai le champ assez ouvert, en fait, pour cette année 2024, après avoir essayé de pousser un peu de nos formations, etc. Donc je m'étais un peu fermé dans la création de formations, parce que j'aimais bien aussi, j'aime bien transmettre. Mais tout à l'heure, on parlait un petit peu de se cramer. La formation, c'est aussi... c'est épuisant, en fait, quand tu veux faire un truc potable et que, du coup, je crois que tu en fais aussi des formations, Arthur.
On en fait tous aussi, au final, parce qu'on en a même une en commun avec les Wizards, à Wizards Academy. Je crois que justement, je t'entendais dire que tu avais une grosse formation, c'est sans doute toujours le cas aujourd'hui, mais de plusieurs dizaines d'heures sur certains sujets avec des centaines de vidéos et tout. Nous, c'est pareil, notre formation, elle fait plus de 35 heures aujourd'hui, je pense, si ce n'est plus.
C'était 42 de base, on a déjà rajouté 3 modules de 1 heure, je crois. Donc,
bon, enfin, c'est une usine.
C'est titanesque.
C'est titanesque.
C'est ça. Et donc, ouais, tout seul, c'est... Enfin, au début, je les faisais tout seul. Après, là, il y a Aurore de mon équipe. Du coup, j'ai une salariée. Et après, c'est vrai que le reste de mon équipe, c'est des freelances ouais. qui je bosse plus ou moins régulièrement. Mais ouais, j'ai une salariée. Et donc, bah, elle m'aide pas mal sur pas mal d'aspects. Hein. Mmh. Et du coup, ouais, pour l'aspect formation, bah, c'est vrai que c'était dur. Parce qu'après, c'est vrai que nous, on essayait de faire aussi des vidéos assez courtes. Ouais. Donc, notamment pour la formation SEO, les vidéos, pardon, elles font entre... 2, 3, 4 minutes. Après, il y a des études de cas qui peuvent durer un petit peu plus longtemps. Mais l'idée, c'est de faire une vidéo, un concept, et tu mets un truc en application. Quoi. Et donc, les scripts ont été conçus de manière à pas... Enfin, je suis pas en mode, OK, je vais parler de maillage interne, je lance ta cam, et puis je blablate pendant, tu vois. Donc, l'idée, c'était de réfléchir le script. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et après, j'y vais au prompteur, et après, je shoot le truc assez rapidement. Mais... C'est du gros boulot et se relancer dans un tel projet où voilà, j'ai plein d'idées de formation, mais bon, pour l'instant, c'est essayer de faire déjà vendre notre formation actuelle et puis bosser sur le SEO, l'apport de lead, etc. Je pense que ça sera déjà un bon levier avant de. Voilà. Je vais essayer de me dégoûter un petit peu de tout ça pour revenir à la formation après. Mais pour l'instant, voilà, c'est plus le kiff de lancer, bah, tout simplement faire du SEO. Quoi. C'est vraiment un truc que j'adore. Quoi.
Tu viens de parler du fait que tu avais quelqu'un en CDI chez toi, et en fait, c'était ouais. déjà le cas il y a 3 ans.
Je crois que c'était pas la même personne.
il me semble aussi. Je crois que là, tu viens de parler d'Aurore, il me semble pas que c'était Aurore. Et à l'époque, c'était justement, tu avais pris quelqu'un pour développer la partie anglophone.
Ouais, c'est ça.
Et donc, tu nous l'as dit au début de ce podcast, tu as quand même une partie aujourd'hui de ton trafic overall qui provient du côté anglophone. Le bilan de cette tentative d'aller à l'étranger et le fait d'avoir embauché, j'étais assez curieux de savoir avec du recul ce que tu en avais pensé, d'avoir embauché pour ça, est-ce que ça a porté ses fruits à terme, parce que c'était quand même un pari assez risqué à l'époque aussi. Ouais. La partie anglophone était tout sauf rentable, elle était en pleine construction. Quel a été le bilan de cette expérience?
Ouais, bah le bilan est assez mitigé hein, quand même, hein, parce que c'est vrai qu'à présent, on publie toujours nos articles en anglais, mais on a un process qui est beaucoup plus simple, et on bosse avec on bossait déjà avec DeepL au départ, hein, ouais. Mais l'idée c'est que, pour essayer de faire les choses à peu près bien, on a fait du DeepL, et après, on repasse dessus, et l'inconvénient qu'on a dans notre domaine, c'est qu'il y a des captures d'écran. Et donc, quand il y a des captures d'écran FR sur le site anglais, bah, c'est tout, voilà, c'est merdique. Donc là, maintenant, on a tout un process. À chaque fois qu'on sort un nouvel article, un nouveau contenu, les captures d'écran sont faites en même temps, etc. Et donc, c'est assez optimisé. Mais à l'époque, voilà, il a fallu se taper pas mal de taf. Et bah, au final, on n'a pas vraiment eu de retour dessus. Bon, on a quand même ça bâtit malgré tout. Mais on n'a pas encore récolté les fruits de tout ça, même à l'heure actuelle, quoi. Donc, même en termes d'affiliation, etc., c'est pas foufou, quoi. Après, je suis pas non plus focus dessus, donc l'idée, c'est vraiment de là, pour l'instant, se refocaliser sur la France et la francophonie au sens large, quoi. Mais donc, c'est vrai qu'embaucher pour ça, c'était peut-être pas une bonne idée, stratégiquement, mais bon, c'était quand même une bonne expérience, c'était ma première expérience d'embauche, donc j'ai vécu plein de trucs, et donc après, c'est vrai qu'on n'a pas continué... avec Cynthia à l'époque, on a préféré séparer les chemins, mais au final voilà, on est encore en bon terme maintenant, donc c'est pas un souci, mais ça fait partie de mon expérience d'entrepreneur qui se fait.
On est tous passés par là un moment, enfin de toute façon on est obligé de, rien n'est parfait et linéaire, quoi, et finalement tant mieux aussi d'une certaine manière. Et vous êtes combien là actuellement dans l'équipe WP Marmite en comptant les freelances du coup?
Voilà, un peu une dizaine, quoi. Ça dépend, il y a des freelances, des fois ils interviennent pour des petits trucs et c'est pas vraiment du long terme, mais après c'est vrai que par exemple typiquement notre monteuse vidéo, bah elle nous monte voilà 2-3 vidéos par mois, donc on peut pas dire que c'est du récurrent, mais elle n'est pas non plus impliquée dans l'équipe, c'est pas vraiment, fait pas partie du noyau dur, quoi, si tu veux. Mais après, c'est vrai qu'on a un lien plutôt, c'est plutôt cool, quoi. Toutes les semaines, on se fait un appel où moi je débriefe la semaine, etc. Chacun débriefe sa semaine, et au final, ça fait un peu comme vraiment une petite équipe. Et on essaye de partager aussi des bons moments. Tous les ans, on se fait ce qu'on appelle le sommet marmite, où on se réunit, donc notre séminaire annuel, quoi. Et donc, on essaie de faire des trucs assez sympas. Donc, la dernière fois, là, c'était en septembre. Après, avec le Covid, c'était un peu plus le bordel, mais ouais, c'est l'idée, quoi. L'idée de quand même de souder quand même l'équipe autour du projet.
Ok. Anto, une petite question?
Comment gères-tu ton temps vie pro, vie perso? Parce que tu vois, c'est un gros projet, mine de rien, que tu as.
Ouais, c'est pas évident. Parce qu'en plus, j'ai 2 enfants, donc 6 et 2 ans bientôt. Donc, c'est pas évident. Donc, après, j'ai un peu des horaires de salarié au final. Hein. C'est, j'emmène les enfants à l'école, voilà, à 9h, je suis à peu près opérationnel. 9h midi, entre midi et 2, bah, il y a toujours des trucs à faire dans la maison. Et puis, 14h, 17h30, quoi. Et après, le soir. Non, après, le soir, ça dépend. Ces derniers temps, j'ai un peu tiré sur la corde, donc faut que je me calme. Mais il y a toujours 1000 trucs à gérer. Donc, malgré le fait que j'ai coupé des trucs, il y a toujours des trucs à gérer. Donc, bah, tu vois, typiquement, les partenaires, etc. Donc, mais là, il y a quelqu'un qui a intégré notre équipe, qui a un profil un peu commercial. Donc là, c'est intéressant parce qu'il va... Alors moi, du coup, c'est pas du tout un profil que j'ai de base. Et donc, il va nous aider un petit peu à faire typiquement des relances avec les hébergeurs à qui on va bosser, les agences, etc. Mmh. Gérer nos pubs Facebook, gérer nos petit peu les pubs en tout cas pour l'acquisition, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est vrai qu'en acquisition on n'était pas très très bon, on était plus vraiment sur de l'organique, mais il faut vraiment qu'on travaille l'acquisition parce que c'est un bon levier quoi. Par rapport à tout ça, au final après c'est aussi un petit peu comme je peux, des fois je tire un peu sur la corde, des fois ça claque un peu, mais c'est pas évident. Donc des fois 17h40, 18h, ouais papa, faut aller prendre la douche, ouais bah oui, j'arrive, je termine un truc. Mais c'est comme ça quoi. Mais il y a pas vraiment de méthode miracle, mais après voilà, il y a quand même des horaires on va dire qui sont calés, mais c'est vrai que ça fait pas, j'aimerais passer beaucoup plus de temps, j'aimerais pouvoir me mettre à fond sur les trucs, mais voilà, après voilà, j'ai 35 ans, j'ai des enfants, donc il faut aussi assurer de ce côté-là. Il y a aussi l'aspect de... la famille, c'est aussi un aspect important, donc il faut pas le délaisser au profit du business, parce que si tu te retrouves riche avec un site et que tu es solo, ça ne sert pas à grand-chose.
Ouais, c'est clair.
Mm. Pour rebondir, parce que là, tu dis que vous faites de l'acquisition via de la pub Facebook, je suppose que vous avez peut-être d'autres trucs. Moi j'avais une question, c'était par rapport à en gros la force de l'emailing au sein de WP Marmite. Donc je suppose que vous faites de la ads Facebook avec un lead magnet qui je suppose derrière fait rentrer les gens dans une base email, peut-être avec une séquence, et derrière comment vous gérez l'emailing, est-ce que vous êtes typiquement dans la stratégie de l'email quotidien, plutôt de la newsletter et de temps en temps vous pushez vos offres. Et puis surtout, quelle place a l'emailing? Est-ce que t'as une grosse base mail depuis très longtemps ou est-ce que c'est plutôt récent?
Je l'ai nettoyé la base mail il y a quelques mois. On était à 40 000 personnes, j'ai passé à 20 000 parce qu'au final, c'est dans ActiveCampaign, tu rack, mais au final, les gens ils ouvrent pas tes mails donc ça sert à rien. Ouais. Donc c'est vrai que je l'ai nettoyé il y a pas longtemps et au final, les stats sont un petit peu améliorés automatiquement parce qu'il y a un petit peu plus d'ouverture, etc., en proportion. Mais par rapport au funnel qu'on a, en fait, on a différents... Alors, si tu veux, on a plein de funnels qui sont prêts, mais il n'y avait pas forcément des pubs dessus parce qu'on avait bossé avec une agence de marketing pour mettre en place un funnel, mais qui débouchait plus sur une VSL et après un appel. Et après, du coup, Alex, il était en appel derrière, essayer de convertir les gens à la formation SEO. Et ça, c'est pas du tout mon taf. Et du coup, j'en ai bouffé de l'appel. Mais très bonne expérience, mais je suis pas très très bon là-dedans. Et j'ai pas envie, du coup, d'insister, de partir maintenant. Ce que je vous disais sur l'accompagnement, j'ai un peu bifurqué de tout ça. Mais du coup, là, l'idée, c'est de mettre en place pareil des pubs, effectivement, sur des lead magnets. Page de remerciement, on présente déjà un petit produit pour essayer de rentabiliser un petit peu l'investissement en pub. Et après, derrière, il y a une séquence pour pitcher notre formation SEO. Pour pitcher notre formation SEO. Et donc après, et en parallèle de ça, on a notre liste principale sur laquelle on communique quand on sort des nouveaux contenus. Et puis après, pareil, des fois, ça nous arrive de faire des lancements, de faire des promos, etc. Alors là, je ne sais pas quand l'épisode sera diffusé, mais...
Dur à dire, trois semaines okay. Peut-être.
Ouais. Ok, donc ça va permettre de communiquer un petit peu, pareil sur nos offres, etc. Donc mettre en avant aussi les différents partenaires. Il y a un mix des deux. Puis du coup, une fois que c'est vrai qu'ils finissent la séquence, ils arrivent dans la liste principale. Donc après, la boucle est bouclée.
Ok, top.
Et ce qui nous permet aussi de segmenter aussi les différents abonnés. Comme ça, on voit pour chaque lead magnet qu'ils ont téléchargé, ils ont un tag. Donc nous, après, justement, avec le commercial, ce qui va nous aider à faire après, c'est de les resegmenter, les recontacter, où est-ce que vous en êtes dans votre projet, voir si on peut les aider ou pas, ou les recommander à des agences SEO. On bosse notamment avec l'agence de Stéphane Badalino, See You Better. Donc on a commencé à mettre ce partenariat en place.
Le deal est bon en plus. Je trouve que ils ont un bon deal globalement.
15% c'est... sur toutes les prestacs.
15% lifetime, c'est pas commun. D'habitude, c'est de la porte d'affaires à 10 ou 15% sur le premier ticket. Franchement, alors qu'on le sait en plus de ça, parce que les gens, quand ils rejoignent dans une agence, la plupart du temps, ils font une presta un peu pas chère, on va dire, et au fil du temps, ils se prennent des upsells et tout, et ça grossit. Et toi, quand tu as fait la porte d'affaires à 10% sur le premier ticket, ça fait un peu chier de savoir que derrière, tu as des gros devis qui se font, mais 6 mois après, quoi.
Donc, voilà.
Est-ce que tu as déjà entendu parler, Alex, de Deadline Funnels? Est-ce que ça te parle?
Ouais, carrément, ça me parle. Ouais.
C'est pas un truc, là, par rapport à ce que tu viens d'expliquer, c'est pas un truc que tu as envie de tester ou peut-être que tu l'as déjà testé sur acquisition pub, VSL et deadline funnels liés à ta VSL. Tu vois, plutôt que d'aller.
Le souci que j'ai avec ça, c'est que c'est pas compatible WordPress parce que nous, on est sur WordPress avec notre boutique, notre plateforme de formation. Et du coup, ça. Alors, je t'avoue, j'ai pas creusé, je me suis pas inscrit, mais c'est vrai que j'en ai entendu parler. Mais de ce que j'ai regardé dans la doc et tout, il y a pas vraiment d'intégration avec WordPress. Okay. Donc, c'est vrai que l'idée, c'était de tout faire un peu sur la même plateforme, quoi, et de maîtriser la plateforme. C'est un truc qu'on pourrait mettre en place, effectivement, d'avoir. Au lieu d'avoir. Parce que moi, je suis pas partisan des faux compteurs, tu vois. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, ce service-là, pour ceux qui connaissent pas, c'est un service qui te permet vraiment d'avoir un compteur à rebours qui est lié vraiment à ce que tu regardes. Et bon, si tu recharges, si tu vas sur la page alors que le compteur est à zéro, bah, c'est vraiment à zéro.
Le gros avantage au-delà du compteur, c'est que grosso modo, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, sur la partie infoproduit, il y a ce qu'on appelle les evergreen. Donc en gros, c'est le produit à son prix normal tout au long de l'année. Et généralement, un infopreneur, quelqu'un qui vend des produits, dans bien des cas, fait plusieurs lancements dans l'année ou va dire bah là, c'est la Saint-Valentin, promo de Saint-Valentin, c'est le Black Friday, promo de Black Friday. Enfin, et en fait, la réalité de ce marché-là, c'est que les infoproduits se vendent à 90% quand c'est en promo ou en lancement. Et le deadline funnel, l'avantage de ça, c'est que ça va simuler au cas par cas pour chaque personne qui rentre dans votre tunnel depuis la pub, une espèce de promo dédié à la personne en question. Donc en fait, ça va lui créer un code promo qui en effet dure 3 jours. Donc en effet, il y a un timer, mais la réalité, c'est que c'est sa période de promo, son timer à lui. Et quand le timer est fini, le prix repasse au prix max. Et donc, c'est un très bon moyen de bénéficier de ventes evergreen tout en alliant la puissance des lancements de manière un peu automatique. Voilà,
C'est peut-être un truc qu'il faudrait que je creuse, effectivement, voir s'il y a moyen que je combine ça effectivement avec WordPress ou avec notre boutique pour. Je sais pas, faut que je regarde. Mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que, comme tu le dis, c'est vrai que on fait des promos de temps en temps, etc. Mais le but, c'est pas d'être vu comme un mec qui fait des promos tout le temps, quoi. Donc, sinon, ça dévalorise un peu tes produits. Enfin, ça t'embarque dans une dynamique que j'aime pas.
Le problème, si je peux me permettre, c'est que même si toi, de ton côté, avec WP Marmite, vous êtes connu, ou peut-être que les gens qui s'intéressent à vos produits, à vos infoproduits, à vos formations, se disent, ils font pas beaucoup de promos, donc je vais l'acheter au prix fort. La réalité, c'est que vous êtes aussi impacté par le marché. Et la réalité du marché, c'est qu'aujourd'hui, les infoproduits, c'est des promos régulières. Et les gens le savent de plus en plus. Et les infopreneurs qui ne font pas de promotion, même si, même s'ils ont sans doute de très bons infoproduits, ce qui doit être ton cas d'ailleurs, Alex, mais tu subis un peu la pression du marché qui, la norme sur l'infoproduit aujourd'hui, c'est de faire des lancements, quoi. Donc,
Non, mais c'est ça. Après, nous, on fait 2 à 3 promos par an, tu vois. On fait Noël, je crois, ou je sais plus si on a fait Noël ou jour de l'an, je sais plus. En tout cas, on a fait anniversaire du blog qui est en février, une promo d'été. Et puis, ça doit être Noël. Black Friday, tu disais tout à l'heure. Comme ça, ça nous fait 3. Et en plus, c'est assez espacé, donc c'est pas mal aussi. Donc, on fait ça. Mais tous ceux qui nous écoutent vont mettre une petite croix sur le calendrier, là. On part là-dessus, effectivement. Après, c'est vrai qu'avant, on avait des lancements. Alors, notamment pour notre formation freelance, mais là, du coup, on a arrêté de communiquer dessus et on se concentre plus sur la formation SEO. Et là, on bosse sur, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un peu la stratégie des challenges.
Ouais.
C'est-à-dire que là, en fait, on va faire un challenge. Alors, du coup, quand ça sera diffusé, ça sera sûrement fait. Mais au mois de mai, en tout cas, on va faire un challenge recherche de mots-clés. Donc, en gros, je vais faire j'ai pas encore structuré tout au moment où je vous parle là, mais en gros l'idée c'est de faire plusieurs lives au cours d'une semaine pour aider les gens à faire leur recherche de mots-clés. Après, une fois qu'ils ont leur mot-clé, bah, l'idée, c'est OK, qu'est-ce que je fais? Tu y auras dans la formation pour creuser davantage le truc. Quoi. Parce que, après, c'est vrai que pour le SEO, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, mais il y a plein de monde qui veut faire du SEO, mais des fois, à part configurer Yoast, c'est tout. Quoi. Ils ne veulent pas faire grand-chose de plus. Quoi. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, tant pis. Pour, y a...
C'est un manque de connaissances en général, je pense. C'est ouais, juste un manque ouais. de savoir ce que c'est vraiment le SEO, tu vois. Il y a des gens qui ont dû regarder deux pauvres vidéos de deux personnes random qui viennent de LinkedIn ou de je sais pas où et qui, du coup, pensent que tout avoir en vert sur Yoast, c'est suffisant pour avoir fait du SEO alors que c'est pas ça. C'est pour ça que c'est malin, le concept des challenges. D'ailleurs, une personne qui fonctionne en challenge et qui fait des très gros montants, c'est... comment elle s'appelle? Margot...
Cunego.
Oui. Cunego, exactement. Ouais. Je crois qu'elle a tapé quasiment le million sur son dernier challenge, quoi.
Et elle fait un challenge par mois ou tous les deux mois, je crois. Donc, ouais. Ça se passe bien pour elle, on va dire. Non, c'est...
Ça se passe bien. Non, mais vraiment, ce concept des challenges, c'est vrai que ça marche bien actuellement.
Ouais, mais j'ai vu ça chez elle, effectivement. J'ai vu ça chez, je sais plus qui d'autre, chez peut-être des Américains, je sais plus les noms. Mais ouais, en tout cas, c'est super intéressant. Mmh. J'ai envie d'expérimenter ça parce que ça change c'est aussi malin, des lancements orchestrés par email. Tu sais que tu as tes 5 emails, etc. Enfin, puis ouais. Là, du coup, tu n'as même plus vraiment de vrais faux mots, tu vois. Où... Alors nous, ce qu'on faisait pendant le lancement de notre formation SEO, c'était qu'on... Toi, on avait aussi des interviews qui sont en plus de la formation. Donc, en gros, on les incluait dans le package, quoi, pour pendant la semaine de lancement. Mais ce n'est pas non plus le truc qui va apporter une valeur de ouf, quoi. Donc, voilà.
Ouais. OK.
Donc, il faut qu'on trouve un truc pour, comment dire, apporter plus sans baisser le prix du produit, quoi.
Ouais.
Parce que le but, c'est de pas jouer que sur les promos, quoi.
Ouais. Vas-y, Franck.
Bah, j'ai une question, parce que tu l'as dit, là, même vous, votre plateforme de formation, elle est directement plug sur votre WordPress. Est-ce que...
Bah, c'est un WordPress, en fait.
Ouais, c'est un WordPress. Est-ce que tu considères que WordPress est aujourd'hui le meilleur CMS, mais pour tout? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu voudrais lancer un e-commerce, est-ce que tu ferais un WooCommerce? Est-ce que tu veux, bah, tu vois, tu n'utilises pas de LMS indépendant, genre un Schoolmaker ou System.io, qu'importe. En gros, pour toi, WordPress peut tout faire, tout.
Ouais, ça peut tout faire, mais après, il faut quand même des compétences techniques, des fois, pour faire tourner la machine, quoi. Des fois, tu te retrouves sur des conflits ou des trucs à la con que tu n'aurais pas sur une plateforme tierce. Mais bon, quand tu es sur une plateforme aussi, tu es dépendant de la plateforme. Donc, s'il y a des choses des fois que tu voudrais mettre en place que tu peux pas forcément mettre en place, mais on va dire que logiquement c'est sûr qu'une plateforme, bah, ça tourne mieux, quoi, parce que tu t'occupes pas de la technique, tu t'occupes pas de la sécurité, tu t'occupes pas de la maintenance, bon, ça c'est quand même cool, mais bon, t'es pas chez toi, et donc bon, après voilà, le but du business c'est que voilà, tout se passe bien pour les clients aussi, donc après c'est même voilà, c'est lié un petit peu à la philosophie de WordPress, quoi. C'est, tu vois, pourquoi tu vas pas chez un Wix et plutôt chez un WordPress, c'est un petit peu la même chose, quoi. Il y a cette idée d'indépendance, en tout cas, qui me plaît bien, d'autonomie par rapport à des plateformes. Mais bon, ça ne m'empêche pas d'utiliser une plateforme d'emailing. Donc, je ne suis pas non plus, fermé. Tu vois, j'utilise Dropbox et je n'ai pas forcément Nextcloud. Donc, voilà, j'essaye un peu d'adapter un petit peu à ce qui est le plus pratique. Mais tu vois, c'est vrai que la plateforme, WordPress, ouais, peut faire pas mal de choses. Hein, effectivement, peut faire du LMS. Alors, il y a WooCommerce, effectivement. Là, WooCommerce, c'est un petit peu compliqué parce que... Quand tu veux faire plein de trucs, il faut vite te passer à la caisse pour faire du paiement récurrent, pour etc. Ouais. Donc là, tu as des concurrents qui sont en train d'émerger. Il y a Surecart. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça.
Comment tu écris ça?
S-U-R-E, Cart, C-A-R-T.
Surecart, ok.
Surecart. Après, l'inconvénient, c'est que c'est quand même... Enfin, c'est un peu un mix entre... c'est un peu un espèce de petit Shopify qui est sur WordPress, quoi. Mais c'est-à-dire que... Il y a quand même des requêtes qui vont aller taper sur leur serveur à eux. Tu vois, tu n'es pas vraiment pleinement indépendant comme avec un WooCommerce. Mais c'est beaucoup plus simple à prendre en main. Mais après, voilà, c'est okay. Un truc pratique au niveau RGPD, etc. Enfin, c'est un peu dépendant de la législation. Donc là, c'est redevenu légal comme Google Analytics. Mais voilà, il y a un an, c'était illégal. Enfin bref, c'est un peu le bordel, quoi. Mais bon, ouais. Après, tu ne peux pas forcément toujours t'arrêter à ça quand même.
Le problème, c'est que tu ne fais pas grand-chose sinon. Hein.
Ouais, c'est ça. Et j'ai vu, je sais pas si vous avez vu passer ça, j'ai vu passer ça il y a peut-être quelques jours. Je crois que c'est Biden, là, en tout cas les États-Unis, ils ont interdit le transfert des données des US vers l'étranger. Alors que ils aspirent les nez de tout le monde. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, les gars. Ils ont aucun.
Mais surtout, je vois même pas comment ça peut être appliqué, en fait.
Ouais, mais c'est du boulot pour
le monde réel.
Dans les boîtes, quoi.
Ouais, voilà, ouais, exactement.
Mais ouais, du coup, ouais, on peut faire pas mal de choses avec WordPress, mais après, effectivement, même s'il y a plein de choses qui sont de plus en plus simples, il faut quand même un petit niveau technique, on va dire.
Ouais. Après, pour tout ce qui est, par exemple, site de niche, t'es d'accord que ça reste.
Ouais, bah, mieux, tu peux faire ça tranquille, hein, effectivement. Ouais. Tu mets tes images. Après, je voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec les blocs, etc. Il y en a qui sont plus équipés Elementor, d'autres qui sont plus Divi, ils sont plus autre chose.
Ouais.
Il y a à boire et à manger pour tout le monde, quoi.
Je pense que ça reste quand même le plus simple à prendre en main globalement pour la plupart des gens. Et en fait, il y a tellement de tutos absolument partout, oui, pour tout, que c'est la force de WordPress, quoi.
Après, ouais, t'as encore des gens qui achètent des sites chez Solocal, hein, donc bon, il y a encore de la marge, hein, mais donc,
le manque de connaissances.
Ouais, grosso modo, c'est vrai que c'est le plus simple, et puis effectivement, on essaie de, bah, même nous, à notre niveau, on essaie de pousser un maximum de ressources, de tutos pour aider les gens à se lancer. Il y a plein de gens, des fois, que je rencontre dans des événements qui me disent, ah, merci, grâce à toi, j'ai lancé mes premiers sites, etc. Donc, ça fait toujours plaisir.
Carrément. Anto ou Arthur?
Arthur, tu peux y aller?
Arthur, vas-y.
Allez, j'y vais. Donc, l'affiliation, c'est au cœur de ton business aujourd'hui, Alex.
Bah, je te disais, pour l'instant, c'est plus 30%, mais ça a peut-être vocation à évoluer. On va voir après comment. Enfin, c'est un peu il y a quand même pas mal de choses qui sont en cours de
restructuration. Un peu
le modèle. Ouais, de restructuration. Et donc, à mon avis, il y a le pôle de l'apport de lead. Qui va, je sais pas quel ratio ça va prendre, mais en tout cas les ratios vont bouger en 2024 et 25, quoi.
Et est-ce que
j'allais juste dire, mais pour moi c'est le genre de truc qui peut être clairement le business model pour vous, hein.
Ouais, non, mais ouais, c'est clair,
à mon avis, ça
peut
être
quoi, je me dis,
mais énorme,
pourquoi t'as pas fait ça.
Ah ouais, le lead, comme ça, mais même après géologue,
dans le bidon,
tu vois,
dans le bidon,
ouais clairement, mais de toute façon. Et puis tu peux pas être partout, et t'avais la formation et tout ça. Peut-être qu'au fond de toi, tu savais peut-être qu'il y avait moyen de faire ça, mais.
Non, mais le pire, c'est que pendant le consulting que j'ai fait avec Fred Bobet, il y a 2 ans, il me l'a dit.
Ouais.
Mais l'idée était pas forcément assez mature, et enfin bref. Mais du coup, tu parlais de géologue, etc. Ça, c'est aussi l'étape d'après.
Ouais,
créer site WordPress et
pour et chaque nom d'une ville
de France, quoi.
Ouais, bien sûr.
Ça c'est la suite.
Ce que je te conseille vraiment là-dessus, sur la partie apport de lead, notamment là on parlait d'agence, c'est de construire une vraie relation avec tes partenaires. En fait, tu peux trop te faire niquer facilement, c'est aussi une réalité. Ouais. T'as aucune visibilité, donc c'est, tu vois, éviter peut-être de bosser avec 15 partenaires, mais aller vraiment rencontrer un ou deux partenaires avec qui tu construis une vraie relation de confiance et avec qui tu peux vraiment te projeter sur le long terme. Je pense que c'est vraiment la clé, parce que c'est tellement simple pour eux de te planquer, tu vois, de pas jouer franc jeu. Et finalement, peu de personnes qui vont jouer franc jeu avec toi, c'est des personnes avec qui tu vas pouvoir construire, et il va y avoir un vrai échange de bons procédés. Donc pour moi, c'est super important. Et sur la partie, justement, lien d'affiliation, parce que j'imagine que comme tous les affiliés avec beaucoup de partenariats, tu coules sous les liens d'affiliation, sous les plateformes d'affiliation, etc. T'as un petit astuce, un petit truc pour gérer ça. Tu as un Excel ou tu passes par un outil qui te permet de centraliser un peu tes commissions, tes liens d'affiliés?
Alors, j'ai pas forcément un listing des commissions, comment dire, chaque mois, etc. Parce que, en fait, c'est pas des sommes folles non plus, à part les gros partenaires, quoi. Et donc l'idée aussi, c'était pas non plus de s'inscrire à chaque programme d'affiliation pour gagner 100 balles à l'année. Bon, c'est pas très intéressant, et du coup ça met même en doute l'honnêteté que t'as quand tu mets un lien d'affiliation. Surtout que nous, on a un petit message de transparence qu'on indique à chaque fois qu'on met de l'affiliation. Donc des fois je préfère même pas mettre de lien d'affiliation, et que pour des petits, on va dire, des trucs qui vont pas vraiment trop rapporter. Mais après, du coup, en termes de gestion, c'est vrai qu'on a effectivement un Google Sheet avec la liste de tous nos liens. Et encore, pareil, on a un peu épuré un peu, parce que pareil, on a fait un peu le ménage dans ce qui marchait pas trop. Sinon, après, en gestion pure des liens, j'ai un WordPress qui est dédié, qui gère, sur lequel il y a un Pretty Links, mais du coup, qui permet de
traquer.
Bah, d'enregistrer tous les liens, de traquer. Mais du coup, c'est pas lié, c'est pas installé sur la marmite, quoi. C'est vraiment sur un sous-domaine, etc. Okay. Donc, ça nous permet de, d'une part, déjà traquer ça, et de, après, de, du côté marmite, de automatiquement les obfusquer pour éviter de renvoyer du jus sur, de renvoyer du jus ailleurs sur les liens là. Quoi.
Ok. Intéressant. Anto, t'en as...
Non, j'en ai plus déjà. Okay. Mais je vais rebondir sur vous.
Pas de souci, Franck.
Ouais. En gros, là, par exemple, WordPress, dans, à l'état actuel, et d'ailleurs, tu en parlais tout à l'heure, qui vont bien évoluer. Qu'est-ce que tu penses qui manque à WordPress? Quelles seraient les améliorations que tu, toi, verrais, en tout cas, pour l'outil? Et bah, du coup, tu peux en parler de ce qu'ils vont changer, parce que c'est, ça peut être intéressant.
Déjà, ce qu'ils ont ajouté, c'est toute l'évolution. Bon, déjà, on partait de l'éditeur classique où c'est que tu devais coller tes shortcodes dedans pour faire des trucs un petit peu évolués. Donc ça, c'était vraiment archaïque. Et, donc, ils sont passés déjà au bloc. Alors ça, c'était en 2018, fin 2018. Alors, clairement, le truc n'était pas prêt à l'époque. Donc, c'était pas terrible, terrible. Mais bon, là, depuis, ça a bien évolué. Et donc là, il y a eu donc, les blocs qui ont été intégrés dans l'éditeur de contenu. Là, et après, il y a les blocs qui ont été intégrés. Donc ça, c'est la phase 1 de Gutenberg, donc du projet Gutenberg. La phase 2, c'est l'éditeur de site. Donc en gros, de pouvoir remodeler un petit peu ton site, d'avoir le constructeur de page natif maison de WordPress. Quoi. Donc ça, c'est cool, même si c'est, ça ne va pas aussi loin qu'Elementor et Divi pour l'instant. Mais voilà, chaque nouvelle version, il y a des choses qui se rajoutent. Après, là, on est passé dans la troisième phase, qui va être la phase de la collaboration, où on va pouvoir vraiment faire un petit peu comme du Google Doc sur les contenus. Donc ça, c'est cool, parce que même nous, par rapport à notre process de rédaction, on écrit sur Google Doc, on met des commentaires, on échange, et après, on intègre dans WordPress. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir directement rédiger dans WordPress, mettre des commentaires, rebondir, partager un lien, etc., comment dire, de prévisualisation, etc. Bon, ça, on peut déjà le faire, mais... enfin bref, il y a beaucoup de choses qui vont être intégrées. Là, il y a toute cette couche de JavaScript qui va arriver aussi. Donc pour avoir évité les rechargements de pages, tout ce qui est avec l'API REST, ça va vraiment bombarder. Quoi. Et donc la phase 4, après, ça sera le multilingue natif qui arrivera. Donc ça, je ne sais pas trop comment ça va se conjuguer avec les extensions existantes, mais bon, à voir. Et donc voilà, il y a déjà pas mal de choses qui vont arriver. Après, qu'est-ce qui manquerait d'autre? Après, voilà, ils vont revoir la bibliothèque de médias, enfin, ils vont revoir vraiment plein de trucs. Donc, au cours de ces quatre phases-là, ça va déjà vraiment transformer littéralement vraiment le CMS. Donc, niveau personnalisation, c'est vraiment pas mal. Déjà, ça va éviter d'aller dans le code pour pouvoir forcément faire des modifs visuels quoi, sur son site. Donc, voilà, comment je peux résumer un petit peu le truc. Mais qu'est-ce que je verrais en plus? Franchement, je ne vois pas d'autre pour l'instant parce que le cahier des charges était assez chargé malgré tout. Quoi.
Et alors, justement, pour rebondir là-dessus, tu as cité plusieurs fois Elementor. Moi, je l'ai beaucoup utilisé à une époque. Mmh. Et en fait, je trouve aujourd'hui que... Alors, et même pour remettre du contexte, quand Gutenberg est sorti, moi, j'avais téléchargé le plugin Classic Editor et je voulais pas en entendre parler. Mmh. Et jusqu'au comme jour beaucoup. Où... comme beaucoup, ouais, je pense. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, je vais quand même essayer sur un site... En fait, il faut avouer que c'est vraiment cool. Et je trouve aujourd'hui, alors que les mentors, j'ai truc legacy, vraiment j'ai l'abonnement legacy, je peux faire des sites forever, quoi. Mm-hmm. Et pour autant, je trouve qu'aujourd'hui, un générate presse, générate blog, Gutenberg et parfois des extensions supplémentaires, ça fait largement le taf. Et donc, tu as cité Divi et les mentors. Est-ce que tu ne penses pas qu'ils sont voués à mourir, en fait, tout simplement?
Ouais, je pense qu'ils ont une inertie. Puis après, tu sais, comme toutes les startups, tu vois, une fois que tu as trouvé une formule qui marche, bah, tu rajoutes des couches sur ton produit, des couches sur des couches sur des couches, et au final, tu te retrouves avec une usine à gaz. Et après, moi, je suis premier dégoûté parce que j'adore Elementor. On a fait une formation dessus. Enfin, j'adore l'outil. Mais c'est vrai que ça se complexifie, quoi. Donc,
Là, le seul truc, je trouve, qui change et qui rend peut-être un poil plus facile, mais je vois même pas trop l'intérêt, c'est toutes les features IA qu'ils ont rajoutées.
Ouais.
Mais bon, IA pour
mais
faire ton titre.
Mais ça va venir dans WordPress aussi. Hein.
Ouais, voilà. Et puis, IA pour faire ton titre, IA pour faire ta métadescription, ou deux, trois trucs. Je trouve ça assez léger.
Non, tu peux générer des images dans Divi, si je dis pas de bêtises, maintenant. T'as un truc qui te génère des images, t'as un truc dans Elementor, bah, tu génères des textes aussi pour t'aider à mettre du contenu. Donc ouais, je crois qu'il y a aussi un truc de génération d'images dans Elementor, ou peut-être pas, enfin je mélange peut-être, mais bon, ça va arriver de plus en plus, mais dans WordPress aussi. Après, comment ça va être branché là-dedans, je sais pas, parce qu'il y a aussi l'aspect open source et tout ça, donc peut-être ça sera un plugin qu'il faudra rajouter en plus pour pouvoir bénéficier de ça. Il y a déjà Jetpack, hein, qui permet de faire ça, il y a des plugins existants aussi qui permettent d'ajouter ça. Il y a un gars qui a développé un truc qui s'appelle Agent WP. Alors, je crois que c'est en bêta ou en alpha, mais en gros le truc c'est que tu vas avoir un espèce de chatbot dans ton admin, et tu lui dis ce que tu veux, et il pourra même te modifier les réglages de ton site.
Ah, ça c'est stylé par contre.
Donc en gros, et c'est un peu comment dire, y a Matt Mullenweg, le cofondateur de WordPress, qui avait parlé de ça, qui avait émis la vision du fait que ça serait vraiment top d'avoir un chat dans lequel tu peux interagir mais avec ton site. Donc en gros tu lis des trucs, ça va modifier des trucs dans la base, ça va faire... Donc les sites internet, je pense, vont pas mal évoluer avec tout ça. Mais après, quand est-ce que ça va arriver, je sais pas. Mais l'avenir, ça annonce vraiment super intéressant. Quoi.
Ouais. Moi, je trouve l'avantage, par contre, aussi à Gutenberg et tout, c'est que c'est natif. Elementor, c'est devenu. Moi, mes sites en Elementor, alors je les faisais sans doute pas très bien et que. Mais putain, c'était long, tout était lent.
Tu mets à jour un plugin, ça casse tout.
Ouais, ça, t'avais des mises à jour, c'était tout pété, ton CSS, il était tout pété. Enfin. C'est devenu compliqué, je trouve, de bosser avec, alors que je suis assez d'accord avec toi, c'était quand même sacrément cool. Mais aujourd'hui, je sais pas, tu utilises GeneratePress avec GeneratBlock? Nous, c'est ce qu'on préconise, par exemple, dans la Wizard Academy, et je trouve ça tellement simple, en fait, et tellement rapide, tout est ultra rapide et tout.
Bah, moi, de base, après, j'étais plus passé en mode Astra. Au final,
Astra Spectra, c'est ça.
Ouais, Astra et Spectra, ouais. Mais après, du coup, là, je suis même plus en train de rebasculer plutôt sur un thème qui est directement sur des blocs. Donc, typiquement, le dernier thème par défaut, 2024, qui est assez cool. Et donc, après, tu lui mets une bibliothèque de blocs et tu peux faire des trucs sympas.
Tu utilises quoi
Ça dépend les projets aussi, c'est comme tout. Quoi,
en mais, bibliothèque de blocs Tu utilises quoi en bibliothèque de blocs
Spectra, qui est pas mal, ouais. Mais bon, ils se valent, hein, ils se tirent tous la bourre pour se rajouter. Parfois, il y a plein de trucs qui sont intéressants. Je suis en train d'ailleurs de préparer une vidéo sur ça. Il y a un truc qui s'appelle GreenShift, qui peut-être d'ailleurs vous intéresser, parce que ça propose des blocs un peu sur l'affiliation. Donc sur tout ce qui est comparaison de produits, un petit peu comme ce que fait Affimax peut-être, ou enfin je connais pas bien, mais je crois que ça doit être ça. Okay. En gros, tu sais, quand tu vois les CDiscount, Amazon, etc. qui sont listés, tu as moyen de faire ça avec... donc c'est GreenShift, vous pouvez jeter un œil, et il y en a un autre, mais je sais plus c'est quoi le nom. Mais ouais, il y a plein de ressources de partout.
Je vois le logo.
C'est difficile de garder l'œil sur tout, quoi.
Je vois le logo et je pense que j'ai vu des sites qui utilisaient ça, parce que quand je fais mes petits avec le truc là qui permet de voir tous les plugins et les thèmes qu'utilisent les gens, j'ai dû le voir deux fois du coup, et je me l'étais mis de côté justement pour les blocs qu'il avait. Parce qu'il a des blocs, en effet, pour l'affiliation qui sont ultra intéressants.
Ouais.
Moi, je voulais savoir, du coup, Alex, ce que tu pensais du netlinking. Quel était ton avis sur le sujet, et si éventuellement, tu avais un budget mensuel alloué à ton netlinking, si tu si en faisais pour la marmite.
Moi, j'en ai jamais trop fait pour la marmite. J'ai un peu saisi les opportunités comme ça. On a testé un peu les. Bah, récemment, on a testé différentes plateformes qu'on a mis en avant sur au sein d'articles. Donc, on a fait quelques commandes. Où j'ai fait même quelques commandes par le passé, mais il n'y avait pas vraiment de budget. Il n'y avait pas vraiment de. D'ailleurs, je me dis peut-être si j'aurais mis ça en avant, ça aurait peut-être encore plus booster le blog. Mais ouais, j'ai jamais trop forcé là-dessus. Après, j'en ai fait davantage sur des projets parallèles que j'ai lancés. Notamment le projet de WP Turbo, qui est un outil de qui est plus pour les devs, pour les aider à générer du code avec et sans IA. Et donc, c'est vrai que pour lancer le site, je suis parti d'un domaine vierge, hein, donc il a fallu un petit peu le booster. Donc, il y a eu de l'outreach qui a été fait, je suis passé par différentes plateformes pour faire un petit pot pourri de liens différents. Quoi. Mais ouais, plus sur les projets parallèles. Après, c'est vrai que je me dis, bon, ça peut être intéressant d'avoir des liens, comme ça, des plateformes, mais est-ce que ça va... Enfin, avec l'autorité actuelle du site, quel est à combien faudrait envoyer pour qu'il y ait vraiment un impact significatif, quoi ? C'est un peu la question que je me demande. Parce que si c'est des petits sites qui font des liens, bon, au final, est-ce que je peux pas les autoriser
à la limite, ouais, bah, je pense que sans doute, d'une certaine manière. Je pense qu'on peut peut-être donner notre avis là-dessus. Je sais pas, Anto,
ouais, carrément, ça m'intéresse.
C'était chaud parce que là, aujourd'hui, ton site a 1343 domaines référents sur ESI Observer, par exemple. Avec une durée de vie aussi, aussi grande, parce que ça, là, ton site a 13 ans, hein, du coup, si je ne m'abuse.
Ouais, ouais.
Donc, tu as un site qui a 13 ans, qui fait toujours du trafic après 13 ans. Pour moi, en fait, et vous direz ce que vous en pensez après, les gars, mais là, tu as un truc, c'est une telle machine que, si tu veux, tu as passé un peu tous les trucs un peu bloquants de Google, où il peut potentiellement te refaire tomber un moment, etc. Je pense que là, aujourd'hui, t'es pas invincible, mais pas loin. Et donc, abuser du lien, c'est pas une mauvaise... Enfin, moi, je pense que je linkerai, pas, quoi qu'il arrive, par-dessus. Et je pense que, justement, je me poserai moins de questions, surtout vu au niveau de tes encres, c'est ultra dilué. Enfin, tu vois, ça se voit que t'as pas netlinké pour ranker et tout. Donc, en fait, moi, je m'en passerai pas parce que...
Avant que ça soit flagué, il y a de la matière.
Tu as une très belle marge et si tu fais les choses, tu vois, justement, tranquillement, il y a pas de souci, quoi. Vous en pensez quoi, les gars?
Après, ouais.
Oh, je suis d'accord, hein, parce que là, quand je regardais, tu as des liens de fou. Hein, en fait, naturellement, tu as des liens d'oufollow depuis WordPress, depuis Canva, depuis SEMrush. Que des trucs comme ça et que des trucs énormes depuis Brevo et tout. Enfin,
Des petites opérations qui se sont faites au fil du temps et donc Canva, pareil, ouais, on veut vous citer. Est-ce que vous êtes OK? Bien sûr, bien sûr. Pas de souci.
Et tu vois, des.
Avec grand plaisir. Ouais.
Tout ça, je suis assez d'accord. En fait, ça donne la possibilité d'aller après de façon chirurgicale linker les pages que tu veux vraiment push. Et sans avoir à trop te prendre la tête, parce qu'en fait l'autorité est déjà présente. Et malgré ça, enfin moi je le vois, on m'achète des liens. Ce matin, il y a une très grosse marque de luxe qui m'achète du lien et tout. Eux, ils continuent à linker, mais des pages très profondes qu'ils veulent faire remonter. Tu vois, si tu sais que t'as des trucs où t'es page 2, page 1, et t'aurais mais bas de page 1 et que t'aurais intérêt à remonter. Quelques petits liens par-ci, par-là. Et en fait, ça permettra de faire grossir tout ça. En fait, l'avantage, c'est que l'autorité, tu as tellement des gros sites d'autorité thématique ou sur des pages thématiques qui linkent que le jus, il est blanchi. Tu pourrais acheter des gros liens de merde sur tout et n'importe quoi. Bon, en fait, ça marcherait quand même. Et je pense que... Ouais. Je pense vraiment t'es invincible.
Ouais, c'est un peu le hack des gros médias, quoi, qui aujourd'hui se permettent de faire tout et n'importe quoi, de fumer tous les petits affiliés parce qu'ils ont un site énorme. Au final, tu as un site énorme qui est très niché, mais énorme quand même, et tu as une confiance de Google qui est quand même assez particulière. Et pour moi, tu peux te permettre, t'en penses quoi, Anto, toi, qu'est-ce que tu ferais
Je ferais pareil, moi je ferais du très très chirurgical sur les pages que tu veux pousser, encre exacte, et c'est parti. Voilà.
Et accessoirement, tu vois, je vois sur Canva, leur page... Leur page n'a pas beaucoup de RD, elle rank bien, mais elle, ouais, tu tires link par-dessus. Honnêtement, je pense que c'est tout bénef, en fait. C'est vraiment tout bénef.
Carrément. Non, mais après, j'ai plein de leviers, en fait. C'est ça, le truc. C'est que, voilà,
après, c'est du budget aussi.
Voilà, il y a du budget, effectivement, mais après, voilà, après... Est-ce que vous serez partisan de partir sur des liens type Linkuma ou partir sur d'autres plateformes?
Linkuma, ouais, tu peux
tout faire.
Toi, dans ton cas,
tu peux. L'idéal, c'est de faire un peu tout. En effet, Linkuma, pourquoi pas. Après, tu vois, vraiment faire un peu de tout, quoi. De toute façon, dans le netlinking, le but, c'est vraiment de diluer au maximum tes sources de liens. Mais même si demain, tu vois, tu as vraiment la flemme, pour moi, il vaut mieux... que tu décides, tu as tu t'identifies quelques pages où tu es 7, 8e sur les mots-clés qui t'intéressent. Et pour le coup, si tu as la turbo-flemme, Linkuma, code Wizards 15%, et hop, on est parti.
Ah, j'ai déjà le compte, moi aussi je suis affilié.
Mais du coup, voilà. En vrai, ça sera mieux que rien, en fait, à mon sens. Et si tu veux aller un peu plus loin, là, ouais, en diluant bien tes sources de liens, en allant les chercher un petit peu ailleurs et tout, et peut-être en achetant des plus gros liens potentiellement. Mais en tout cas, c'est cool de voir que tu as aussi ce potentiel-là, ce levier-là.
Non, mais effectivement, c'est pour ça aussi que je me suis dit que j'allais partir sur ce silo des hébergeurs. Parce que ouais, quand tu tapes les noms de marques des hébergeurs, tu vois toujours les mêmes, quoi. Donc l'idée, je me suis dit, bon, allez, je vais tester, on va voir ce que ça va donner. Et donc là, je suis sur O2Switch, je crois qu'on est quatrième sur la requête O2Switch.
Okay.
Donc sans rien faire, juste avec le mini silo qu'on a fait.
Okay.
Parce que l'idée effectivement c'était de faire une page O2Switch, mais après d'avoir des sous-pages sur des requêtes secondaires et les mailler entre elles en dessous, et pour pousser la page principale qui poussait même la page d'hébergeur. Donc ouais, il y a encore plein de trucs à faire, mais ouais, j'ai de quoi m'occuper en tout cas. Ouais.
Franck,
entre ça, ouais, ouais. Vas-y.
Est-ce que alors, en gros, tout à l'heure, tu as parlé brièvement des répartitions de CA. J'aimerais bien juste que tu peut-être précises un point là-dessus. Mm-hmm. Est-ce que parce que du coup, tu as parlé d'affiliation, 30% à peu près, enfin entre 20 et 30%. Tu as la formation, qui, ouais, je suppose, est le pourcentage peut-être le plus conséquent. Mm-hmm. Tu as parlé du fait, mais du coup, que tu as arrêté, mais la partie un petit peu consulting et tout ça.
Ouais.
Est-ce que il y a toute une partie peut-être plus B2B qu'on ne verrait pas qui apparaît, mais je suppose que si c'était le cas, c'était la partie consulting. Tu fais pas du done for you par exemple?
Non, bah non, en fait j'ai pas eu. Enfin, je veux pas me transformer en agence SEO ou en agence, ouais, marketing, etc. C'était plus du done with you dans les offres qu'on proposait okay, en accompagnement. Mais tu vois, même ça, je me suis dit, ça colle pas. En fait, je préfère passer du temps sur mon site, tu vois, avec tout ce dont on a discuté, tout ce qu'il y a à faire. Je me dis, merde, voilà. Bon, accompagner les gens, c'est bien, mais ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de découvrir des niches, de tester des trucs. Mais il y a tellement de choses à faire de notre côté que, en fait, le choix, il est vite fait, quoi.
Ouais, ok. Et du coup, je rebondis avec une autre question, notamment par rapport à la formation. Ouais. Comme tu l'as dit, vous avez du coup un pôle de formation, ce qui veut dire que j'ai vu sur votre site, vous avez le CPF.
Alors, tu dois confondre du coup avec WP Chef, peut-être.
Ah bah alors, peut-être que je me suis pris une redirection, mais...
Parce qu'en fait, nous, les formations qu'on propose sur WP Marmite, il n'y a pas de CPF. Parce que justement, je voulais pas m'embarquer pareil dans l'administratif, etc.
Okay.
Limite, t'embauches quelqu'un dédié à ça, quoi. Donc, c'est pas.
Bon, je sais.
Ah, voilà, c'est bien, oui, pour les gens qui veulent se former, tu vois. Mais en fait, WP Chef, c'est une boîte que j'ai cofondée, okay, qui prend le CPF, effectivement. Ouais. Mais du coup, je suis plus opérationnel dedans. J'ai toujours des, okay, parts dans la société. Mais voilà, à un moment, en gros, c'était trop chaud de gérer et WP Chef et WP Marmite et de faire les deux correctement. Mmh. Okay. Et donc voilà. Mais du coup, c'est Nicolas, mon associé, qui gère tout ça. Il y a plusieurs salariés et tout ça. Donc là, ça tourne bien.
Ouais, je pense que j'avais mal capté, en fait, parce que du coup, WP Chef, je pensais avec que c'était le nom, avec un le nom, produit. Ouais, c'est ça, que c'était un produit de WP Marmite. Mais au final, c'est vraiment la boîte à part.
Okay. C'est ça, ouais, c'est une autre boîte. Du coup, c'est vrai qu'on l'a confondé. À la base, on était trois. Il y avait moi, Maxime, Bernard Jacquet et Nicolas Richer. On était tous les trois de l'écosystème WordPress. Il n'y avait pas de formation WordPress de référence. Et donc, c'était en 2015-2016, on a lancé ça. Au début, on est parti sans prise en charge de financement, etc., de public, quoi. Et puis, du coup, voilà, on a fait une première formation, on a fait des lancements, etc. Donc, poussé par WP Marmite, bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que là, depuis, ça a pas mal évolué, du coup, parce qu'on n'est plus que deux associés, fondateurs en tout cas. Maxime est parti et Nicolas, du coup, gère le truc. Et moi, je suis plus en mode, j'apporte des gens via la WP Marmite. Mmh. Et voilà, quoi. Okay. Juste en associé sans avoir de part opérationnelle dans la société, quoi.
Mais du coup, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que CPF, parce que du coup, tu vois quand même l'envers du décor, est-ce que c'est vraiment cheat code, genre du coup les gens viennent dépenser leur CPF très facilement, ou est-ce que au fond ça aide mais c'est pas non plus
Au début ça a beaucoup aidé parce qu'on était bien classé dans le moteur de recherche. Mais du coup, du jour au lendemain, les mecs ils ont, allez hop, quel que soit le nombre de notes, quel que soit le truc, dès que tu avais WordPress en fait dans le titre, tu rankais premier. Donc en fait, on est parti un peu dans les larmes de ce truc-là, donc ça m'a mis un peu un coup. Mais okay, après, je t'avoue que moi, je suis pas assez dans le business pour te faire un retour plus concret là-dessus. Moi, je suis vraiment, en plus, je suis limite extérieur, mais en gros, j'ai des parts et puis voilà, on se fait un point régulièrement et c'est tout, quoi. Mais okay. Non, après, ouais, y a quand même des gens qui se forment au CPF et c'est la grande partie des gens qui se forment. Mais ouais, c'est plutôt un bon business, quoi.
Ok.
On n'a pas encore parlé d'IA, en tout cas pas en profondeur. Moi, je voudrais savoir ce que l'IA a changé pour WTP Marmite et comment est-ce que tu l'utilises aujourd'hui.
Du coup, comme je le disais tout à l'heure, on a lancé un projet qui s'appelle VP Turbo dans lequel on met de l'IA qui aide les devs à générer du code pour WordPress. Du coup, nous, ça nous sert aussi. Des fois, mon dev, il doit être un peu déçu parce que du coup, on passe un peu moins par lui. Mais du coup, ouais, pour nous faire des petits trucs comme ça, alors moi, de base, je code un peu, mais je ne suis pas non plus un super codeur. Donc, c'est vrai que ça m'aide pas mal quand il y a besoin de mettre en place un truc, de faire un petit snippet pour ajouter 2-3 trucs sur le site. Après, dès qu'il y a besoin de quelque chose de plus costaud, là, on passe par nos développeurs. Mais ça permet, ce background-là me permet de bien communiquer avec des devs. Après, en termes d'IA, on a testé un peu TextBulker de Stéphane Maddaleno, mais sans trop forcer non plus, pour ces fameuses pages de niche, là, avant qu'on fasse un petit peu notre structure un peu dédiée. Après, on l'a testé un peu pour des définitions de glossaire, parce qu'on a aussi un glossaire sur le blog. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, il faudrait qu'on creuse aussi cet aspect-là. Après, c'est pas non plus le truc le plus urgent. Après, on fait pas vraiment de contenu, genre de contenu de blog ou vraiment contenu rédactionnel basé sur de l'IA. En tout cas, le truc qui a vocation à être visible, à être vraiment mis en avant. Parce que l'idée, c'est les gens, ils nous suivent parce que justement, on donne des conseils bien précis, qu'on teste vraiment les trucs et que si on sort un truc qui est pondu bien par sûr. De l'IA, on n'a plus vraiment de valeur ajoutée. Donc après, voilà, je m'empêche pas de tester. Par exemple, sur le VP Turbo, on a aussi fait un générateur de contenu. Typiquement, tous les snippets qu'on... Comment dire ? Attends, je vais revenir en amont. On a trouvé on s'est inspiré de chez un concurrent pour voir sur quel mot-clé. Enfin, on a pris sitemap, on a pris tous les mots-clés, tout ce qui était lié à du code, quoi, en fait. Et donc, ça nous a pondu un certain nombre de snippets. Et avec l'IA, on a scrappé nos propres snippets. On a chopé les noms de classes, les noms de fonctions et les noms de hooks dans WordPress pour faire une mini-documentation de ce truc-là. Donc, en fait, on s'est fait une espèce de silo de tout ça. Et ça apporte pas un trafic de fou, mais en gros, c'était un peu une expérimentation quoi, pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Mais du coup, voilà, on va peut-être creuser sur d'autres choses comme ça, liées à WordPress. Il y a peut-être des erreurs WordPress, ce genre de trucs-là. On pourrait générer des contenus assez facilement sur ces sujets-là. Quoi. Okay. Donc, ouais, super intéressé par l'IA. Et après, pareil, c'est une question d'arbitrage entre ce sur quoi on se focalise dans un premier temps. Mais là, vraiment, le focus par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est les pages de niche et puis essayer de récolter des prospects à renvoyer ou en tout cas à renvoyer vers les bonnes ressources ou les bons partenaires.
Okay.
Mais ouais, il faudrait une équipe de genre de 10 personnes à plein temps pour mettre en place tout ce qu'on a à mettre en place. Mais en tout cas, voilà, l'idée, ça serait d'arriver à générer assez de cash pour pouvoir agrandir l'équipe et qu'on puisse pousser le truc. Après, je sais pas jusqu'où je pousserai le projet. J'ai pas envie d'avoir non plus 25 personnes à gérer. Enfin, je sais pas. Je sais pas quelque chose que je connais. Donc voilà. Ne serait-ce que d'avoir déjà 4-5 salariés, ça serait cool pour pouvoir vraiment développer le truc. Mais on verra ce que ça va donner.
Tu te sens un peu plus à l'aise, toi, par rapport au côté management et tout, parce que tu disais dans un podcast que j'ai écouté qui date d'il y a quelques années que c'était pas nécessairement ton fort. Est-ce que tu as progressé là-dessus? Est-ce que t'es plus à l'aise avec ça aujourd'hui ou...
Ouais, je me suis fait accompagner pour notamment mettre en place ne serait-ce qu'une grille de salaire. Déjà, il y a la grille de salaire. Tous les ans, ça augmente de temps si on fait assez de chiffres. Comme ça, on évacue tout le côté négociation. Machin négocie mieux que truc. Et du coup, l'autre, il est mieux payé et que ça fait des guéguerres, etc. Donc, l'idée, c'était un petit peu d'assainir un petit peu tout ça. Après, créer du lien, prendre soin des gens, penser à eux et pas... c'est pas leur projet, donc c'est normal qu'ils soient pas autant investis que nous. Mais je me suis fait accompagner. Alors, sûrement, il faudrait que je continue. Mais niveau recrutement aussi, c'est pas évident de trouver les bonnes personnes. Est-ce qu'on va le faire confiance à cette personne? C'est vraiment pas évident le côté humain. Mais je pense que c'est mon côté, on va dire, geek, SEO, éditeur de site qui me rebute un peu. Mais après, il n'y a pas le choix si tu veux passer au niveau supérieur. Sinon, tu continues toujours à faire les mêmes trucs et. Donc, il faut passer par là, mais en essayant de se structurer au mieux, quoi, je pense.
Pour moi, c'est le côté peut-être un geek, comme tu dis, mais c'est aussi le côté un peu réaliste, tu vois. Tu es peut-être entouré de gens qui ont des entreprises et on... enfin, nous, on est très entouré d'entrepreneurs et on s'en rend compte que trouver la bonne personne, faut se lever tôt quand même, c'est dur. Hein. Trouver des gens à la fois compétents, à la fois humainement corrects, qui vont pas te faire une dinguerie, genre du jour au lendemain, ils se pointent plus au travail alors que tout se passait bien. Et en fait, c'est des trucs...
Ghosté, tu comprends pas.
Ouais, c'est ça, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Enfin, moi, j'ai entendu des trucs comme ça, ça me fait péter un câble. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui fait, par exemple, avec Anto, Arthur et moi comme ça, mais avec Anto, nous, cette partie recruter des gens, c'est complexe, je pense. C'est de trouver les bonnes personnes et tout, c'est trop de prise de tête.
Ouais, c'est... Alors du coup, je me suis pas mal formé là-dessus quand j'étais en phase de recrutement. J'ai lu un bouquin qui s'appelle « Woo ». Je crois que vous en avez déjà parlé. Je sais plus les auteurs, mais... Je sais pas. C'est peut-être pas dans un autre podcast que j'ai entendu ça, alors peut-être. Mais en tout cas, voilà, ça donne vraiment un process sur comment trouver la bonne personne. Bah, c'est un funnel, au final. Hein. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est un petit peu la même chose, un peu plus poussé que quand tu cherches quelqu'un sur Upwork, tu vois, quand tu veux déléguer des tâches. Mais c'est sûr que là, c'est pas le même type d'engagement que tu cherches, mais et puis surtout, voilà, quand t'es en France, voilà, vaut mieux pas trop te planter, quoi, bien choisir, quoi. Il y a la période d'essai qui compte, mais voilà, si tu fais ça peut coûter cher si tu fais de con, quoi.
Pour la petite anecdote, là, Franck, tu disais que on pouvait se faire lâcher du jour au lendemain. Moi, j'ai un de mes prestataires il y a quelques semaines, là, disparu du jour au lendemain, mais vraiment disparu complet, hein. Bien payé, tout se passait bien, pas d'altercation, rien à signaler, du jour au lendemain disparu. Ouf. Et c'est pas disparu il a eu un accident, il est pas là, et c'est terrible, c'est il a quitté les différents trucs, quand j'envoie un mail il se passe plus rien, enfin rideau, quoi, fin de générique de fin.
Donc, générique de fin.
Ouais, c'est fou. Ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident, mais après, je sais pas si vous voulez, on peut en parler un petit peu de ce process-là. Mais du coup, nous, ce qu'on a mis en place, basé sur ce bouquin-là, l'idée, c'est... après, le principe, c'est d'avoir quand même des gens qui arrivent tout le temps. Mais bon, là, c'est vraiment pas vraiment le cas. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment un flot continu de gens qui candidatent, en tout cas, qui sont dispo. T'as un espèce de vivier. Et après, c'est en trois étapes. En gros, tu fais déjà passer un questionnaire tout con, déjà pour qualifier un peu les gens, s'ils te font une réponse de une ligne ou des trucs vraiment, tu vois, qui ne sont pas du tout impliqués, bah, comme ça, tu peux déjà faire un premier filtre. Après, deuxième étape, tu as le... c'est pas le test, la deuxième étape. Bah, si, du coup, bah, tu as le test. Après, ça dépend un petit peu ce que c'est, mais un test, des fois, si c'est des gros trucs, c'est des tests rémunérés. Typiquement, là, pour trouver la personne qui devait faire les montages, voilà, j'ai un peu raqué pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient sortir, quoi, ce qu'ils avaient dans le ventre. Mais du coup, voilà, un test, alors qu'une rédaction ou un truc comme ça de contenu, ou voilà, typiquement des posts de réseaux sociaux si on cherche un community manager, etc. Ou et après, poser des questions qui sont un petit peu spécifiques à tout ça pour voir ce qui ressort. Et après, troisième étape, vraiment l'interview, parce que du coup... de base, tu pourrais te dire, vas-y, je fais un entretien direct, mais quand tu dois te taper X entretiens, t'es rincé, ça te bouffe du temps. Donc l'idée, c'est de mettre un maximum de filtres avant pour pouvoir essayer d'avoir la crème de la crème qui arrive en entretien, quoi. En tout cas, avec les critères que tu auras posés, quoi.
C'est exactement comme ça qu'on fonctionne. Et la seule différence, c'est que moi, je ne paye jamais mes tests, par contre. Typiquement, tu parlais des monteurs. Un monteur, même en francophonie, hein, ça ne veut pas dire que je vais leur faire monter une vidéo de 10 minutes gratos. Ce n'est absolument pas le cas. Mais par contre, c'est ultra structuré dans ce que je veux. Je veux ça, 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 ça. Et je veux que tu montes 30 secondes de vidéo. Ouais, 30 secondes, ça
va. Ah, 30 secondes.
Ouais, 30 secondes. Ouais. Mais du coup, ça me permet du coup de faire ce pré-filtre. Et donc, exactement ce que tu viens de dire. Et derrière, par contre, si jamais les 30 secondes sont convaincantes, on va plus loin dans le processus de recrutement. Et à partir de là, tout est rémunéré, tu vois. Mais le pré-filtre, le premier test, c'est je rémunère pas. Parce que, dans le cas de la rédaction, par contre, je rémunère, mais je rémunère généralement moitié prix. Parce que, pareil, mais sur un petit volume, tu vois, c'est pas moitié prix sur un texte de 10 000 mots. C'est moitié prix sur un article normal de 1 000 mots, par exemple. Ouais. C'est le test, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est top parce que c'est exactement... Enfin, c'est ce qu'il faut faire. Là, tu as tout dit. C'est, on prend le recrutement comme un funnel et pré-formulaire avec questions pour présélectionner le test. Et ensuite, on va un peu plus loin.
Après, quand tu te retrouves avec plusieurs candidats qui ont passé l'interview, là, après, c'est un petit peu au doigt mouillé. Quoi, tu vois, tu te dis, OK, allez, on va tester et puis on va voir ce que ça va donner.
Quoi. Ouais. Mais l'une des clés, en effet, c'est le volume. C'est vraiment c'est le vivier, quoi. C'est ce que tu disais au début. C'est, plus il y a de gens dans le funnel, plus tu vas tomber sur la pépite qui va faire toute la diff, quoi. Et si tu recrutes en saccadé, un, tu perds du temps. Deux, c'est beaucoup plus compliqué de tomber sur des gens compétents.
Après, quand tu as une petite équipe de base, c'est pas évident d'être sur tous les fronts, quoi. Donc,
c'est sûr.
Ouais, faut jauger, quoi. Après, on peut faire ça aussi en mode comme un lancement. Tu vois, je crois que c'est Stan Leloup qui faisait ça aussi. Il mettait vraiment une échéance pour dire pour candidater, c'est jusqu'à telle date. Okay. Et après, on ferme les trucs. Quoi. Donc, ça, j'ai jamais fait, mais pourquoi pas tester. Ouais. Mais du coup, quand tu veux recruter dans ta communauté, donc, c'est vrai que Aurore, elle était abonnée à notre newsletter.
Okay. Donc, c'est le top, ça. Quand tu peux recruter au sein même des gens qui te suivent, c'est
comme vraiment. Ça, tu balances un email et hop, tu peux initier un petit peu le truc. Quoi. Donc, ça, c'est cool. Puis c'est des gens qui connaissent aussi ta niche, donc ça aussi c'est un atout qui n'est pas négligeable. Donc, parce que des fois il y a des gens sur Upwork, tu veux le. Bah, typiquement, moi j'ai beaucoup galéré à trouver une community manager. Quoi. Parce que quelqu'un qui s'y connaisse, bah, déjà qui arrive à bien faire son taf de community manager, mais qui connaisse un minimum WordPress pour pouvoir pas dire des conneries dans les textes qui vont être écrits et les visuels et être bon pour faire des graphiques, enfin des visuels, c'est pas évident.
Ouais.
Donc ouais.
Du coup, moi, ma dernière question que j'ai, c'est WP Marmite, c'est ton bébé du coup depuis 13 ans.
Ouais.
Est-ce que tu as déjà pensé à de la revente? Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit? Est-ce que tu es ouvert à ce genre de choses?
Ouais, ça m'a déjà traversé l'esprit. Après, je sais pas si je le ferais. Enfin, si on me proposait ça maintenant, je pense que je dirais non. Parce que vu le nombre de choses que j'ai à mettre en place et qui peuvent vraiment faire évoluer le business, je me dis que ça serait dommage de le faire maintenant. Après, voilà. Peut-être, ouais, je pense qu'un jour, je ne vais pas rester jusqu'à 50 balais à faire du WordPress. Quoi, mais donc, voilà, je pense que je serai amené à le revendre un jour. Mais surtout que voilà, j'ai plein d'autres idées de projets, donc ça, ce n'est pas ça qui manque. Et aussi, ça peut apporter voilà, un capital pour lancer d'autres trucs après. Avec ma chérie, on fait aussi de l'immobilier déjà. Donc, pourquoi pas après me focaliser plus là-dessus. Mais après, c'est vrai que faire des sites et tout ça, c'est vraiment ce qui me passionne aussi. Donc, je pense que ce sera un projet web qui viendra après. Mais bon, si on me fait une offre que je ne peux pas refuser, peut-être que je dirai oui. Mais pas tout de suite, je pense.
Et les projets futurs que tu aurais, ça serait par exemple de retourner vraiment en pur éditeur de site parce que tu as déjà vu passer des niches et tu t'es dit j'aimerais tellement taper des trucs comme ça. Ou tu resterais plutôt dans des choses très publiques, très
mainstream. Ouais, monter une marque, tu veux dire.
Ouais, par exemple, ouais, voilà.
Ouais, ça serait plus ça, ouais. Okay. J'ai plusieurs idées en stock là, mais que je peux pas forcément lancer. D'ailleurs, avec l'IA qui pourrait être intéressante, mais j'ai plusieurs idées en stock que j'aimerais bien lancer. Ou même d'autres projets au final qui seraient hors web, mais du coup, je sais pas si je serais bon là-dedans. Mais lancer des trucs plus sur, comment dire, développement durable, ce genre de trucs là, quoi. Je sais pas si vous avez déjà eu passer des trucs, des turbines que tu mets dans les rivières, tu sais, pour générer du courant, ouais, faire ce genre de trucs.
Stylé,
j'aimerais bien lancer ce genre de trucs là. Parce que je me dis que c'est des trucs qui sont sous-exploités, quoi. Il y a de la flotte partout. Après, ça se trouve, c'est totalement con en matière de rendement, tu vois, j'en sais rien. Mais bon, c'est des trucs qui m'intéressent, quoi, ce genre de choses-là. Quoi.
Okay.
Donc, dans l'énergie, tu vois, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de trucs, tu sais, où les mecs qui cultivent des algues pour faire du gaz. Bref, là, c'est vraiment un autre type de projet, c'est plus un truc industriel. Donc, je ne sais pas si ça pourrait vraiment me correspondre, mais peut-être dans une deuxième partie de vie, j'en sais rien, quoi. Mais pour l'instant, je kiffe quand même faire des sites. Quoi. Donc, ou en tout cas, participer à ce genre d'aventure, donc ça pourrait être intéressant aussi. Mais voilà un petit peu ce que je pourrais donner en piste. Quoi, mais okay. Après, voilà, j'aimerais plutôt remonter une marque, quoi, si jamais je devais vendre. Mais j'avoue que ça me ferait un sacré vide si je devais vendre.
J'imagine.
Et je serais triste de voir aussi que, tu sais, des fois, tu as plein de projets qui se font racheter et qui se font saloper par les mecs qui ont racheté et qui font perdre un peu la...
Je pense qu'il ne faut pas trop regarder, hein, une fois que
tu as vendu. C'est ce que j'allais dire. c'est fini, tu fermes les yeux.
Tu fais ton deuil, quoi. C'est rideau.
Ouais, c'est ça. Rideau, effectivement. Mais ouais. Donc, pour l'instant, je ne suis pas ouvert au truc, mais pourquoi pas la même.
Okay. Quelle est la question, s'il y en a une, à laquelle tu t'attendais dans ce podcast et qu'on ne t'a pas forcément posée?
Ah, bah c'est la... je m'y suis préparé en plus, c'est la question si tu devais repartir de zéro. Vous l'aviez posé à plusieurs personnes. Mais du coup,
ah bah coup, allez, on y va. Si tu devais repartir alors, de
coup,
zéro.
Du coup, il y a deux alternatives. C'est est-ce que je devrais repartir de zéro maintenant avec mes compétences ou est-ce que je devrais repartir de zéro à l'époque avec mes compétences
maintenant avec tes compétences.
Ouais, parce que enfin, je sais pas si je devais, enfin, avec mes compétences et mes contraintes, on va dire, je sais pas si j'aurais l'énergie de me relancer et à charbonner comme j'ai charbonné pour lancer le site.
Alors, avec tes compétences, mais à l'époque sans les contraintes.
Ouais, alors j'aurais peut-être plus, je serais plus parti déjà sur du produit plus tôt, sur pareil de l'emailing plus tôt. J'aurais fait beaucoup de choses plus tôt. Quoi. L'apport de prospects, pareil, plus tôt. Parce qu'avant, j'avais fait hein, toutes ces sélections de thèmes WordPress restaurant, etc. Je me dis, quel gâchis. Mais bon, c'est comme ça, c'est mon parcours. Mais ouais, j'aurais fait beaucoup de choses plus tôt. Quoi.
C'est finalement de bons conseils pour les éditeurs qui nous écoutent et qui font, par exemple, que de l'affiliation. Ne pas hésiter. Nous, on le prône souvent, on le dit dans le Wizards Podcast. Faites de l'email, capturez des mails, même sur un site d'affiliation. Essayez de voir si votre niche n'est pas propice à la création de produits, même si ce n'est pas une grosse formation vidéo, ça peut être des petits e-books bien qualitatifs,
avec, des ateliers.
Ça peut être plein de choses, mais c'est intéressant.
Et puis le fait de vraiment construire une marque, parce qu'à l'époque, moi, ça s'appelait WP Theme Pro, parce qu'effectivement, je présentais des thèmes, mais après, trouver un nom de marque, ce n'est pas non plus évident, mais vraiment partir vraiment essayer de créer une marque et essayer de... Alors après, ce n'est pas évident non plus, mais d'être présent à un maximum d'endroits, quoi. Faire rayonner ta marque un peu partout. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler. Tu m'avais posé la question par rapport à l'IA. Là, on est en train de... Parce qu'en fait, nous, on a une newsletter qui s'appelle VP Marmit News, qu'on envoie tous les 15 jours. Et en fait, là, on est en train de bosser avec Joanie, que vous connaissez sûrement, et on est en train de monter un système pour que chaque news puisse être transformée en article via l'IA. Mais du coup, alors c'est sur le sous-domaine news.vpmarine.com pour essayer de taper, d'être présent dans du Discover. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si je veux vraiment avoir un gros trafic parce que c'est quand même assez niché. Mais en tout cas, je cherche à expérimenter. Et même si en fait, on a des impressions, l'idée, c'est de montrer la petite marmite un petit peu partout comme ça sous les yeux. Tu vois, dès que tu ouvres ton téléphone, pareil sur le TikTok, il faudrait que je refasse des vidéos. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Mais essayer d'arriver à être un peu partout pour que dès qu'on parle de WordPress, paf, ça passe. Il y a marmite qui viennent aussi.
Ça t'arrive, Alex, de te poser, de faire un Pareto, tu vois, de calculer vraiment ce qui aujourd'hui, les 20% qui te rapportent 80% de tes résultats dans ta productivité. Parce que depuis le début de ce podcast, alors c'est pas un jugement du tout, parce qu'on est globalement un peu pareil. Hein, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de trucs qui reviennent de. Je pourrais faire plein de trucs, il faut que je fasse du TikTok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Est-ce que des fois, ça t'arrive d'essayer de te dire qu'est-ce qui aujourd'hui dans mon business me rapporte
clairement, là, c'est l'emailing, hein, c'est les emails. Hein, c'est les emails et après l'acquisition, acquisition Facebook et Instagram, mais au final, ça capture de l'email, donc on y revient aussi. Donc ça, c'est vraiment le focus qu'on a. Mais après, c'est vrai que à côté, je lance des petites aventures comme ça pour tester des trucs, tu vois, mais... après, c'est sûr que il faudrait en gros une plus grosse équipe pour pouvoir être à fond un peu plus sur tout. Quoi. Mais en tout cas, je plante des graines, j'essaie de voir un petit peu ce qui mord et tout. Et puis voilà, après j'avise. Quoi.
Ok.
Mais ouais, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur l'email et l'acquisition via les réseaux. Quoi. Mais après, c'est vrai que peut-être que via TikTok, il y a moyen de pousser aussi des lead magnets, etc. Mais bon, on peut pas être partout. Quoi.
C'est ça.
Ouais. Il y a YouTube aussi. C'est pas la même qualité.
YouTube aussi, c'est un beau canal.
Ouais.
C'est un beau canal qu'on vous en parliez, je crois aussi avec le, je sais plus comment il s'appelle, mais le gars des Triconautes.
Ouais.
Benjamin.
Ouais. Et donc il y a YouTube nous a pas mal aidé aussi à grossir, à se faire connaître. Donc après le truc c'est que les vidéos elles se périment aussi.
Ouais.
Donc il faut que je retourne et il y a plein de sujets à faire.
C'est un peu le problème de la tech aussi.
Plein d'opportunités.
De quoi Antoine,
le problème de le SEO et tout c'est que ça évolue vite donc t'es toujours obligé de remettre à jour les formations, les vidéos, enfin tout quoi.
Après t'as une base evergreen quand même.
Ouais mais c'est pas comme un tricot où tu tricotes depuis 500 ans depuis la même façon tu vois.
C'est vrai.
Y a X boîtes qui font des produits et donc ils sortent des mises à jour en permanence et faut suivre quoi.
Ah, c'est clair.
Ouais. C'est pas évident.
Et ça me faisait marrer parce que Franck, par rapport au trafic TikTok, il est un peu traumatisé parce que là, j'ai fait un test sur TikTok et j'envoie sur la liste des Wizards des leads TikTok. Okay. Et en effet, honnêtement, c'est vraiment...
Ouais, même la Az, c'est des putains de Mongols où j'ai coupé, pour dire.
Mais ouais, c'est la qualité est pas la même. Ouais. Entre les gens qu'on capture sur le podcast, l'email qu'on va capturer sur le podcast et l'email qu'on va capturer sur TikTok, c'est, je te dis, il y a un souci, quoi.
TikTok, c'est low quality.
Ah ouais,
ouais, donc tu vois, après, je me dis sur TikTok, il y a peut-être moyen d'un peu de pousser de l'affiliation et puis peut-être sans que ça aille plus loin, tu vois.
C'est ce que je vais expérimenter.
Ok, tu veux monter
aussi,
un site. Alors, tu vois, typiquement, ce que je vais faire là sur les. Ce que je suis en train de faire sur les différentes niches. Là je peux le faire assez facilement. Comment créer un site WordPress pour restaurant, hop, tu donnes X ressources et puis, et puis c'est torché, quoi. Et tu fais ça pour 50 niches et puis après tu vois ce qui se passe, quoi.
Ouais.
Donc après voilà, ça serait plus du one shot quand même, sans forcément vouloir créer une communauté sur TikTok, avoir des gens qui soient aussi comment dire, engagés, quoi, que dans la newsletter et dans notre Discord. J'ai pas parlé du Discord. On a un Discord Marmite aussi.
Okay.
Voilà, l'idée, c'est de rassembler les gens, puis après, pareil, pour avoir une meilleure relation que par email, quoi, parce que par email, c'est assez descendant et c'est une relation plus intéressante sur Discord. Quoi.
Ouais, bah, t'as l'échange.
Vous pouvez voir aussi sur le
groupe. Ouais,
ouais, c'est ça, c'est de l'échange. Ouais.
Les revenus passifs sur Internet, est-ce que ça existe ?
Ça existe, mais faut vraiment bosser beaucoup en amont pour que ça puisse. Ah non, après voilà, si tu montes plein de petits sites d'édition, et encore, hein, comme on le disait tout à l'heure, il y a les gros médias qui viennent dans la bagarre, donc.
Puis même sans ça, la réalité. Alors je sais pas si c'est un truc que tu as déjà ressenti d'une manière ou d'une autre, que ça soit avec la Marmite ou autre chose ou d'autres projets, mais tu as ce truc là où en effet, dans tous les cas, tu l'as dit, faut bosser fort au début. Après, tu as cette espèce de côté où tu as l'impression que ça peut être un peu passif et ça l'est peut-être pendant quelques temps, mais c'est un peu le piège parce que ouais, bah, tu te prends un tir parce que si tu te dis ok, c'est passif donc je fais autre chose ou je pars en vacances ou enfin voilà. Et, la réalité, c'est qu'en fait, tu aurais mieux fait de focus ton projet, ce que tu as d'ailleurs toi fait avec ta marque. Tu as continué de bosser dessus toutes ces années, c'est ce qui fait que tu es encore là aujourd'hui, là où il y a plein de gens qui en fait, dès que ça commence à marcher, boum, allez, ciao. C'est passif maintenant, l'argent passif c'est cool et en fait c'est. Ouais, c'est...
Bah après, ça m'est arrivé aussi hein, parce que voilà, j'ai lancé WP Chef, ça m'a pris beaucoup de temps avec mes associés. Il y a eu des hauts et des bas, etc. J'ai lancé d'autres projets, etc. Après, c'était toujours des projets dans WordPress et j'arrivais plus ou moins à les raccrocher à la marmite. Quoi. C'était pas des trucs indépendants qui n'avaient rien à voir. Même si ça m'est déjà arrivé de sur un coup de tête, j'avais voulu lancer un truc de print on demand. Bon, ça date d'il y a. Il y a 6-7 ans, ça remonte un peu. Bon, j'avais pas forcément tenu le coup, mais moi j'étais revenu vraiment sur la marmite après.
T'avais fait avec quoi le print on demand?
C'était quoi?
C'était des t-shirts ou c'était autre chose?
Non, c'était des t-shirts, tu sais, puis après tu faisais les pubs Facebook.
C'était Teezily?
Teezily, Teespring.
Peut-être le premier.
Teezily.
Teezily, c'était peut-être ça. Je sais plus, je me rappelle même plus le fournisseur.
On en a fait à l'époque.
Mais après voilà, faut vraiment trouver la bonne punchline à mettre sur le t-shirt, etc. Parce qu'en plus, comme tu te prends la TVA sur la tronche, c'est très dur d'être rentable.
Ouais,
quoi. Donc,
en effet, ouais.
Ça m'a un peu découragé ce truc-là. Quoi. Vendre des formations, c'était plus intéressant.
Bah ouais, il y a de la marge. Quoi.
C'est ça.
Bah écoute, Alex, un immense merci pour ta présence sur ce podcast. C'était très cool d'avoir cet échange avec toi.
Merci à vous les gars. J'ai regardé les épisodes et du coup t'es arrivé un petit peu comme une fleur comme ça. Je me suis dit ah ouais, bah écoute, ça, c'est mon tour du coup, sympa. Merci beaucoup pour l'accueil.
Merci à toi et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si l'épisode vous a plu, un petit like, un petit abonnement si c'est pas encore fait, les petites étoiles sur Spotify ou les autres plateformes d'écoute. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.
Salut.
Ciao ciao.
Ciao.